welcome back to podcast number one around the world. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On est dans un resto au centre-ville chez Moishes depuis 1938 qui sont toi, mon beau-frère.
Ah ouais, traité comme des rois encore une semaine, yeah. Frank. Et je suis assez content d'être ici et de commencer ma semaine un lundi.
Let's fucking go.
Un de nos invités préférés qui revient. C'est une bonne journée quand même.
On l'a-tu à Bellevue?
On l'a à Bellevue.
Faisant des entrevues avec des top G. On se lève, on peut se lever quand même tôt pour un lundi.
C'est vrai.
On vient podcaster, puis après ça, notre journée est finie. Ça va bien.
Ça va quand même bien. Mais moi, je me suis fait à 6h, par exemple. J'ai fait de la recherche un peu sur... Mais les autres journées, d'habitude, je me lève plus tard, fait que ça va. Là, pour Arnaud, je peux me lever à 6h un matin. Là, demande-moi-en pas un deuxième.
Je comprends.
Un matin. Mais ouais, on se fait recevoir par le restaurant Le Moishes, qui est populaire à Montréal. Fait qu'on les remercie beaucoup. Si jamais ça vous intéresse de venir, un steakhouse de haute qualité, c'est ici que ça se passe. Super beau décor, comme on peut voir. C'est luxueux, on est bien traité. Pareil,
oh,
c'est
yeah.
Délicieux. Fait qu'on les remercie du plus profond.
J'en ai goûté. J'en ai goûté.
Tu en as goûté, ouais. Ben oui.
Ouais, ouais. Comment tu vas, toi?
Moi, ça va bien, man. Je me prépare pour l'événement qui s'en vient. Je m'en vais à Igloo Fest, moi, à Québec, dans genre deux fins de semaine.
Oh ouais, hein?
Ouais, fait que ça va brasser.
6 au 8 mars, j'ai bien hâte. Moi, tout, je vais être là. Je vais prendre une fin de semaine de congé pour aller là. On est allé l'année passée, mais là, cette année, il y a Tiesto. Moi,
ouais,
Tiesto, je l'ai vu comme l'été. Mais là, l'hiver, je veux vraiment vivre l'expérience.
Ouais, ben quand même impressionnant, grosse programmation pour la ville de Québec, là. C'est des gros DJ, je suis vraiment pas le gars qui connaît tant que ça les DJ, mais il y a des noms que je connais, fait que ça veut dire que c'est du monde connu. Le 6 mars, il y a Yaz Kazen, ça je sais pas, Nico De Andrea, puis Tiesto. Après ça, 7 mars, il y a Sinless, il y a Iki, puis il y a Kalo, puis il y a Miss Monique. Puis le 8 mars, il y a Lou Fresh, TDJ, puis Deadmau5, tout le monde dit c'est qui, il y a la grosse
bon.
Tête de souris,
ouais.
Puis tout.
Tiesto pour Québec, je trouve que c'est gros. Surtout en plein hiver, il se passe à rien à Québec. Fait que, surtout pour les gens de notre âge, fait que c'est le fun qu'il y ait un gros événement là, qui va pouvoir avoir lieu.
Oui, exact. C'était le fun l'année passée. Moi, j'avais eu du fun quand même. Ils donnent genre, ils vendent sur le truc des patchs que tu peux te mettre dans les mitaines pour pas avoir frais tôt.
Comment on appelle ça? Donc des hot patchs.
Des hot patchs. Là, tu peux tenir ton drink puis tu gèles pas les bouts de doigts. Puis honnêtement, c'est vrai que c'est cool. Il se passait rien à Québec quand on habitait là l'hiver. Genre, tous les restos, tout ferme. Les bars ferment la semaine. Comme tout devient tranquille.
Puis là, on s'en va. Puis là, ça part.
C'est ça. Fait que là, fait que pendant une fin de semaine, là, il se passe de quoi de le fun. Fait que si t'es à Québec, t'es en train d'hiberner, ben crème, là, ton opportunité, là, vas-y. C'est au Gloufest que ça se passe. Puis
du genre à t'habiller trop chaudement ou pas assez chaudement dans ces événements-là?
On dirait que je suis tout le temps off de ces affaires-là. Genre, à toutes les fois qu'il faut... Mettons, j'étais allé voir le football à Buffalo, puis là, genre, il pleut tout le temps à Buffalo, mais moi, je m'étais habillé comme si j'allais en Antarctique. Genre, on dirait que je me trompe tout le temps, asti. Fait que genre, l'année passée, j'arrivais ben trop chaud. Là. Genre, moi, je pensais que genre je voulais vraiment pas avoir fret, puis finalement, man, j'ai sué tout le long. Puis, j'ai de la misère à me gager, toi.
Moi, je suis rendu à l'âge où je suis bien capable de gager. Je regarde la météo, puis je me spot, puis j'amène tout le temps un petit peu de rechange, genre des bas, mettons.
Mais toi, c'est vrai, ça. C'est quelque chose qui m'impressionne de toi. Je sais pas si c'est notre âge de différence, mais toi, t'es le gars tout le temps équipé avec ce qu'il faut. Tu sais, t'as tout le temps le bon équipement pour chaque situation.
Ah, je suis genre, OK, on s'en va en ski. Pour une à six fois dans l'hiver, je m'en vais au magasin puis je m'équipe en neuf en ski, mettons.
C'est ça, t'es un gars douillet, là.
En fin de semaine, j'étais au Saguenay, j'étais allé prendre une marche puis on s'en allait dans le bois, j'avais pas de bottes. Fait que j'étais allé m'acheter des bottes à 300$ puis là, je suis full équipé. Mais tu sais, je vis dans le centre-ville à Montréal, il y a pas de fucking neige. J'y remettrai pas mes hosties de bottes, tu sais.
Non, c'est ça, mais au moins, Chris, ça fait bien des avoirs, tu sais, t'es équipé.
Mais c'est un rendez-vous, venez nous voir du 6 au 8 mars. Igloo Fest à Québec. Je pense qu'on est prêt à accueillir notre invité.
Ben absolument,
hein?
Mais juste avant de l'accueillir, je remercie notre commanditaire qui est là encore cette semaine, Eros et compagnie, qui est là pour nous supporter. On les remercie, c'est les meilleurs avec le code BREAK15, c'est 15% de rabais sur tous les produits. Puis là, je pense qu'on est ready.
Sans plus tarder, pas besoin de présentation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Arnaud! Salut! Oh yeah! Comment ça va, mon minou?
Fire!
Pourrais-tu garder ton personnage de nous autres tout le long?
Fire! Fire. Non, non, non.
Là, on est moins gelé qu'on était, là. Fait que,
c'est vrai, hein?
Plus de vigueur.
Mais mine de rien, moi, la première fois que je suis venu sur le podcast avec vous autres, là, dans la petite piscine, ça fait-tu 3-4 ans, peut-être?
T'étais vraiment 4 au début. Hein?
Honnêtement, la pandémie...
Ça fait 3 ans qu'on roule.
OK, ben c'était dans les premiers épisodes. Ouais, ouais, okay, ouais. T'es un de nos épisodes qui nous a donné le plus de crédibilité. Le nombre de fois que j'ai utilisé ton nom dans mes courriels pour dire on a reçu, genre, Arnaud Soli, telle personne, pour montrer que, genre, on est... Fait que toi, t'étais ce gars-là, là. C'était notre premier sérieux, que c'était pas une porn star. Check, on a pas juste des filles dans l'OnlyFans, on a un humoriste Arnaud Soli en bédaine dans l'espace.
Content de voir les boys.
What the fuck?
Oh Chris!
Asti, ça part. J'allais vous dire pas de surprise cette fois-là.
Ah non, on s'est dit, tu nous ferais-tu, tu peux-tu nous faire des verres d'eau, s'il te plaît?
Il est français, Lietti!
Il est français! Mais il n'y a pas. T'as-tu ton micro, Lietti? On t'entend pas si tu n'utilises pas ton micro.
Un problème de vue.
Okay. Ah, c'est-tu qu'ils sont perdus, les Français, hein?
Non, non,
c'est...
je suis du
Le
Mont-Royal,
plateau Mont-Royal, c'est par là!
Mais oui, je viens du Mont-Royal, d'ailleurs.
Il est venu rap et glue fest.
Un peu d'eau avec plaisir, mon ami.
Oh, ben t'as-tu une question française pour Arnaud?
Une question française pour Arnaud, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de la France? J'ai vu que t'avais joué à Paris.
C'est une bonne question.
À Paris, pardon. Pas de la
J'suis
France.
Allé jouer à Paris, puis c'est une bonne question pour vrai. Ça a été... c'est quand même tough pour un humoriste québécois de faire son chemin en stand-up là-bas pour plein de raisons. Là, je réponds sérieusement à la question. Je sais pas si c'est
non,
correct.
C'est bon,
mais...
ouais, ouais, ouais. On n'a pas de question.
Ouais, c'est ça. Non, mais au-delà de la barrière de la langue, parce que ça s'adapte, le culturellement, c'est pas les mêmes référents. Puis, il y a tellement d'humoristes en ce moment en France. C'est comme s'ils vivent le boom qu'on a eu, nous, il y a une couple d'années,
quand
tout le monde s'est mis à ouvrir des comedy clubs.
OK.
Nous, ça fait 5-6 ans, là, je pense, ça a stagné. Paris, là, à chaque jour, il y a un comedy club qui ouvre.
Mais c'est ça, on était allé un peu, on était allé au Frige, nous autres. Puis c'est vrai que c'était genre l'effervescence commençait.
Vous l'avez senti, que c'était comme s'ils découvraient une nouvelle forme culturelle. Puis j'ai le feeling que ça crée beaucoup de compétition à l'interne, ce qui peut être sain parce que le niveau, il est vraiment bon. Il y a beaucoup de bons humoristes à Paris. Mais l'ambiance en soi est un peu stressante, moi, j'ai trouvé.
Mm-hmm.
Après, les gens étaient conviviales avec moi, mais je sentais que c'était comme... Tout le monde veut faire sa place, c'est très... Alors qu'au Québec, il y a quelque chose d'un peu plus comme chill, peut-être dans notre personnalité aussi, plus collaboratif.
Moins compétitif.
Mais moi, je sens ça, mais après, c'est peut-être parce que je suis plus établi, mais je suis arrivé à Paris, puis j'avais le même stress que quand je commençais dans un bar au Québec.
Parce que c'était la nouvelle phase qu'il fallait qu'il se prouve.
Mais ben, un, personne ne me connaît, je peux pas juste surfer sur ma notoriété. Puis deux, j'étais genre, ils vont-tu comprendre? Tu sais, ça se peut qu'ils pigent que dalle. Finalement, ça a été quand même pas pire.
Puis c'est un objectif pour toi de percer là-bas? Ou
pas tant, pour vrai. Parce que, tu sais, je le vois, là, des amis qui poussent un peu sur le marché, puis il faut le faire avec un commitment total, je pense. Il faut que tu y ailles 3 fois par année, que tu hustles, puis j'ai pas cette énergie-là, tu sais, j'ai des kids, puis ça va bien ici.
Ben c'est ça, tu sais, je voyais, parce que nous, on l'a essayé un peu, on est allé en faire des podcasts.
Ça a l'air compliqué, là, la porte. Il a deux mains.
Ah, merci, Yeti. Je pense qu'on va être correct pour là. Si jamais on a besoin de quelque chose, on te refait signe.
Merci, mon frérot.
Mets-toi confortable. Mais ouais, c'est ça. Genre, je voyais, parce que là, tu sais, t'es en train de faire ton one-man show, puis je voyais en entrevue que t'avais dit que tu faisais plus de show la fin de semaine, genre, parce que tu veux t'occuper de tes enfants, puis ça devient compliqué de gérer ça. Puis la France, j'ai l'impression que si tu veux percer, c'est le genre de truc, faut que t'ailles 6 mois, genre, non-stop, puis que tu ailles te faire des contacts, puis tout ça. Fait que, c'est-tu quelque chose qui est possible pour un père de famille de faire ça, ou ça se peut même
pas? Ça se peut, mais tes enfants vont sûrement t'en vouloir dans le futur, dans le sens que, tu sais, la conciliation travail-famille, c'est l'objectif de tout le monde qui a des kids puis une job, là, je pense, ou n'importe qui se calisse pas de ses enfants. Mais la réalité, c'est que, tu sais, il faut que tu passes du temps avec. T'sais, moi, j'avais des parents musiciens, j'ai encore des parents musiciens qui partaient en tournée. Je trouvais ça tough, mais tu sais, ils partaient en tournée des fois 3, 4, 5 jours. Puis je me rappelle, c'était dur. Genre, je pleurais, puis des fois, genre, je leur en voulais. Fait que fais ça fois 5 mois, 6 mois. Je suis pas sûr que tu peux avoir une relation saine avec tes enfants si t'es drop la moitié de l'année, puis même pour ton couple. Sinon, t'es amène avec toi, rendu là. Peut-être qu'il y en a qui font comme straight up, on va déménager là-bas. T'sais, Anthony Cavana, rapidement, il a déménagé là-bas. Stéphane Rousseau, il est allé habiter là-bas. Il y en a qui l'ont fait le move. Mais juste partir comme ça. Puis c'est tellement gros, la France, man. C'est 10 fois la population du Québec dans un territoire minuscule. Je sais pas, mais tu sais, pour un humoriste qui gagne bien sa vie ici, l'intérêt, je pense, c'est plus pour l'ego de dire je vais aller percer en Europe. Mm-hmm. Après, Sugar Sammy le fait très bien. Tu sais, il y a quelques cas, mais non, moi, je trouve ça irréaliste.
Ouais, mais penses-tu que tu es plus conscient de ça, le conciliance famille-travail, parce que tu as comme été victime de ça?
Ben, peut-être plus dans le sens où, ayant des parents artistes, ben. Oui, je l'ai vu un petit peu plus, mais ceci dit, il y a plein de jobs où est-ce que les parents ils partent ça à go, tu sais, des parents qui partent faire du whatever, man, de la route. Tu sais, il y en a plein, là, des parents absents. Moi, overall, il était présent, tu sais, j'avais comme un bon filet familial. Mais je me rappelle très bien quand même du feeling de comme en vouloir à mes parents. Tu sais, surtout ma mère, quand elle est partie en tournée, puis j'étais jeune, puis je pense que ça avait comme arrêté l'allaitement ou quelque chose, puis... C'est plus elle qui me l'a raconté, mais j'étais vraiment fâché. Tu sais, l'enfant, il prend...
J'étais là à quel âge? Ouais, pour que... À quel âge tu as arrêté de t'allaiter ou que tu t'en rappelles?
Non, mais je m'en rappelle pas tant. Je pense qu'on me l'a raconté, mais okay, que j'étais vraiment fâché contre elle. Tu sais, c'est le réflexe d'un enfant qui... C'est comme si pour l'enfant, son parent, il est dû, là. C'est comme possessif. Puis là, de faire comme... Asti, tu t'en vas où, toi? Fait que je sais pas, ouais, ça a peut-être influencé.
Parce que c'est ça qui m'intéressait de ta mentalité quand je t'entendais parler. Parce que, mettons, tu sais, d'habitude, le monde qui ont les clés du showbiz puis que ça débloque, ils ont comme la mentalité de ça peut arrêter demain, fait que genre je vais tout faire puis let's go, faut que ça soit là, faut que je vende le plus de billets, faut que je fasse les plus gros shows, genre mais tout c'est là. Puis toi, je t'écoutais puis tu disais, ouais, mais tu sais, moi, ma carrière, je veux qu'elle continue à rouler dans 60 ans. Ben, quand je vais avoir 60 ans, fait que j'ai pas besoin de me brûler, tu sais. Genre, je trouvais que t'avais comme une approche un peu mature de ça, de faire comme, ben, tu sais, je veux pas tout faire en même temps parce que ça va durer longtemps, mais c'est-tu parce que t'as déjà eu ce côté-là où tu voulais comme tout faire parce que là, ma carrière à part, puis là, t'es rendu un peu avec un recul par rapport à ça ou t'as tout le temps été de même?
Non, c'est assez nouveau comme réflexe. Je te dirais que dans les dernières années, j'ai eu... Tu sais, quand Club Soli a arrêté, c'était un peu mon rêve, moi, d'avoir un show télé, un show à sketch. Ça fait 3 saisons, c'était malade. Mais pendant ces années-là, j'ai eu... Il y a eu la naissance de mes 2 filles. Il y a eu le show télé. Je faisais de la radio. J'avais mon premier one-man show qu'on a fait quand même 200 dates. Plus les corpos, plus les projets, Soli Podcast, etc. Fait que là, j'ai fait beaucoup d'affaires en mode, c'est le temps, il faut que tu milques le succès puis le momentum pendant qu'il est là. Avec un minding de, si ça arrête, est-ce que tout arrête? Tu sais, comme tu disais, on a toujours peur que ça soit notre dernier contrat, la dernière. Puis, je me suis rendu compte que j'étais pas nécessairement plus heureux quand... Je gagnais un Olivier quand je vendais 50 000 billets. Fait que t'as beau avoir de la reconnaissance, du succès critique populaire, des likes. OK, tu sais, tu te mets des benchmarks. OK, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000. OK, si ça, c'est le fun. Puis tout de suite après, le même genre de vide de comme... OK, mais cette fin-là, c'est ça que je réalise en fait, c'est que cette fin-là, elle est comme... inassouvissable. Je sais pas comment dire le mot. Je suis pas capable de remplir ce creux-là. Ouais, fait que, ouais. C'est d'accepter qu'il faut que je garde cette fin-là, de vouloir créer puis me dépasser, mais que je me ground dans des relations saines. Puis pour moi, ça passe par la famille, les amis, le sport, tout ce qui est sain puis qui me fait du bien comme réellement, tu sais.
Si les reconnaissances comme gagner des oliviers puis vendre des centaines de milliers de tickets te rend pas si heureux que ça, c'est quoi qui te rend heureux dans ce que tu fais?
Ben, moi, ce que j'aime le plus dans ma job, c'est le côté créatif. T'sais, ce que j'aime le plus, c'est monter, c'est imaginer, c'est de faire le projet avec mes amis. Quand je fais mes Soli podcasts, c'est de m'asseoir avec des chums puis partir une impro. Après ça, je fais le montage avec mon chum. Après ça, d'être impliqué dans le processus créatif. Une fois que c'est sorti, je suis content, je suis fier, j'aime le feedback, mais ça vient aussi avec l'anxiété de « Ah, oh, il y a un mauvais commentaire, si, ça. » Tu comprends? C'est comme... C'est vraiment c'est tout le bout de la cuisine avant d'avoir les mains dedans que j'aime. C'est le côté créatif.
T'sais. T'es-tu capable? Parce que moi, tout, on dirait des fois, je me dis ça, genre, c'est le côté créatif que j'aime. Mais en même temps, dès que ça marche pas, je me mets à haïr ce que j'ai créé. Genre, ouais, mettons, tu crées de quoi, puis là, tu penses que ça va être bon, puis là, tu le sors, puis là, finalement, ça pogne pas. Si tu montes en calice, puis là, t'es asti que c'était de la merde. Mais dans le fond, fait que c'est pas le côté créatif.
Ben, ça, je pense que c'est notre cerveau de notre génération qui est programmé à associer qualité avec. Clic ou le succès du data. Fait que s'il y a un projet que tu adores, puis comme de fait tu le sors, puis il n'y a pas les views que tu pensais, notre cerveau fait ah ben c'est parce que c'est moins bon. Mais ça veut pas dire ça. Il y a un truc algorithmique qu'on contrôle pas. Il y a un facteur clic, chance.
Timing.
Puis, tu sais, je trouve que c'est insidieux un peu parce que les créateurs, on en vient à créer toujours en fonction de comment stimuler l'algorithme. Puis ça, mm-hmm. ça passe par faire du clickbait, ça passe par faire du ragebait. On sait que générer de l'engagement, c'est ça qui marche. Puis pour générer de l'engagement, ça prend souvent de la polémique, de la confrontation dans les commentaires. Puis je trouve que ça crée une espèce de système malsain où est-ce que ton cerveau, il associe conflit à succès.
Ouais.
Mais on est tous pognés là-dedans parce que les algorithmes contrôlent notre manière de créer sur les réseaux sociaux. C'est ouais. difficile de se dissocier de ça.
Puis tu sais, t'as pogné, comme tu disais, t'avais 50 000 projets à la fois. T'as comme pogné un gros pic. Puis est-ce que, vu que t'as connu ça, là, t'es comme plus dans le sens de... Tu surfes là-dessus, puis tu veux-tu repogner ce genre de pic-là? T'sais? Tu veux-tu revenir à avoir un show à TV, ton one-man show? Tu y vas plus relax parce que tu l'as vécu, puis t'es peut-être moins... Tu sais, comme moi, on dirait, prends un break, ça l'a crissement piqué, mm-hmm. puis tu sais, là, c'est moins ce que c'était, mais on a un nouveau projet avec Too Blind, Too Date, mais j'ai comme moins envie que ça pogne crissement, mais j'ai plus envie d'avoir du fun qu'il ouais. faut que ça marche à tout prix.
Ouais, c'est une bonne question. Ben, je demeure quelqu'un d'assez ambitieux. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai pas encore touchées dans mon travail que je veux faire. Tu sais, écrire de la fiction pour la télé ou le cinéma. J'aimerais ça réaliser. J'aimerais ça. Plein d'affaires que je veux faire qui sont pas encore à terme. Pousser la chaîne YouTube. Fait que, tu sais, je pense créativement, je manque pas d'idées. Mon nouveau show que je commence à faire là, sur scène, je suis vraiment fier. Je le trouve super bon. Peut-être que c'est de réaliser que l'objectif, ça va être moins dans me brûler à faire quelque chose comme faire la recette plus qu'à comme vraiment être fier de moi puis vraiment essayer de me dépasser créativement puis rester pertinent. Moi, ça a toujours été un des enjeux en humour. J'ai vraiment peur de devenir le gars comme lourd que les jeunes sont comme « Asti, c'est qui le vieux Chris qui fait tellement... des jokes? » Tu te comprends?
Ça a l'air dur de bien vieillir comme pour un humoriste, je trouve. Il y en a plein que c'est ça, qui était ouais. bon dans vingtaine, dans trentaine, puis qu'à un moment donné, tu fais comme « Asti, t'as arrêté de suivre, genre t'es tombé à côté. »
C'est soit c'est le clash des générations, que toutes les générations se clashent entre elles naturellement, ou soit c'est qu'il y a du monde qui s'assoit sur une formule, qui arrête de se remettre en question. Là, tu sais, je suis pas là pour nommer des noms ou rien, mais... On l'a vu, comme tu dis, en effet, l'espèce d'humoriste comme peut-être trop dans ses pantoufles ou qui devient juste un genre de réactionnaire ou qui dit les mêmes affaires tout le temps puis qui a plus d'effet de surprise, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, me fait peur, tu sais. Je trouve ça plus important de rester pertinent auprès du public, auprès de mes collègues que presque n'importe quoi d'autre.
Mais tantôt, t'as touché au fait que, genre, pour Internet, pour que ça fonctionne, c'est aller chercher le conflit, c'est la meilleure façon.
Souvent, ouais.
Puis je trouve qu'au début, quand je t'ai regardé le début de ta carrière, je te voyais comme un humoriste. On dirait qu'on t'en voyait pas beaucoup tes opinions. Genre, t'étais plus de l'humour de situation, peut-être.
Ouais.
C'était plus dans ce style-là. Puis là, on dirait que dans les dernières années, je te vois dans des conflits, justement. Je t'ai vu un peu de pognon avec des masculinistes. Genre, j'ai vu une couple de trucs.
Moi, je me suis pas pogné avec personne. C'est eux autres qui sont pognés.
Les autres sont fâchés après toi, mais t'as ri d'eux
ouais,
un peu.
Absolument,
je t'ai
ouais.
vu commenter une couple de trucs.
Ben ouais, c'est ça.
Mais il y a de quoi rire aussi, là. C'est drôle, là, regarder ça, mais c'est-tu conscient, ça? C'est-tu parce que là, t'es rendu plus vieux dans ton truc et tu te fais plus confiance, que t'es genre là, je peux montrer un peu plus c'est quoi mes opinions?
Super bonne question. Je pense que naturellement, en vieillissant, je me politise un peu plus. C'est sûr, quand j'ai commencé à faire de l'humour dans vingtaine, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Fait que je faisais de l'absurde, je faisais des jeux de mots, je faisais des la flûte dans le nez, je faisais des sketchs très...
grand public.
Puis je fais encore des trucs de même très absurdes. Mais je pense que peut-être le climat social a changé sur 10 ans. J'ai l'impression qu'on est à une heure où est-ce que le politique s'ingère un peu plus dans notre vie. C'est peut-être une impression, là, mais les réseaux sociaux donnent cet effet-là.
Bon, c'est un bon lecture.
Puis, autant j'haïs le conflit, autant j'aime pas me mettre au cœur d'une tempête. Là. Je pense pas que je suis l'humoriste le plus polarisant. Autant des fois, je fais comme utiliser l'humour pour critiquer des facettes de notre société. Je trouve que c'est vraiment un bon outil. Puis, tu sais, dans le cas des mascus... Ben, c'est parce que, tu sais, on dirait qu'ils ont fait une passe à palette à tous les humoristes du Québec. Là. Je veux dire, le stock était là. T'es comme, c'est difficile de pas puncher là-dessus. Là. Mais.
Ouais, mais en vrai, je t'avais vu. C'est la première fois que j'avais vu ça, c'est que t'avais commenté en dessous d'une affaire. Genre, on dirait que j'écoute un de mes sketchs. J'étais comme, ah, Chris,
oui, ça se peut. Ben, c'est parce que des fois, moi, je fais de la satire. Puis là, des fois, il y a des affaires dans l'actualité politique qui ont l'air encore plus absurdes que les jokes qu'on se force à écrire. Puis t'es comme. ça, c'est particulier, où tu sais, certains podcasts ou certaines vidéos qui sont mis de l'avant, puis je reviens tantôt à ce que je disais par rapport au rage click, là, tu sais, de comme, ouais, ouais. Tu te demandes si c'est, ils poussent pas la note pour justement se démarquer dans l'algorithme, à dire des affaires des fois qui ont aucun sens, là.
Ben, la réponse, ouais. C'est oui, là.
Ben, la réponse, c'est oui, puis moi, en répondant à ça, je tombe dans le panneau un peu, ça. Mais d'un autre côté, je suis comme, il faut call out certaines c'est affaires, ça. Fait que... Mais oui, je pense que j'assume certains aspects plus engagés. Là. Tu sais, je mets des guillemets. J'ai jamais voulu faire de l'humour moralisateur. Je pense que l'humour a même cette force-là de rassembler des gens. Tu sais, parce que quand tu es dans une salle de show devant 2000 personnes qui viennent de backgrounds différents, de différentes cultures, différentes générations, tu peux, dans le rire, trouver une espèce de climat, de fédérateur, pour s'unifier, tu sais. Puis je pense que ça rassemble les gens, le rire. Si on rit de la même chose, déjà, on est plus complices. Après, il faut trouver les bonnes cibles, tu sais. Ouais. Ben.
T'as-tu peur d'aller trop loin des fois? T'as fait un petit sketch où ce que tu imites Elon Musk, ouais. Faire un salut...
Romain, je pense.
Romain, c'est ça.
Paraît que c'était Romain.
Romain qui revenait à mode dans les années 30-40.
Mais...
Là, ça revient à mode, ouais, ouais. Semble-t-il. Là, mais
ouais, je me suis demandé en le faisant. Je ne l'ai pas trop overthink. Là, c'était tellement de l'actualité. Là, c'était comme... C'est ça qui se passe aussi sur le web, c'est qu'il y a une culture du meme où est-ce que, tu sais, moi, j'ai cette chance-là sur mes réseaux sociaux de pouvoir réagir vite à quelque chose en faisant une vidéo dans mon sol. Ça prend 3 minutes versus un show télé. Il faut valider des textes. Puis là, le temps que tu en parles, c'est plus d'actualité. Fait que j'ai jumpé là-dessus, je trouvais ça drôle. Il n'y a pas eu vraiment de gros backlash, mais il y en a qui questionnaient le fait de refaire le signe, t'sais, de ne pas banaliser ce signe-là. Il y en a qui... Je me suis fait un peu insulter, comme toujours, quand on s'en prend à des gens qui sont polarisants. Mais overall, ça a quand même bien passé, mais... Fait que j'essaie de pas trop overthink, parce que, tu sais, je suis comme, « Hey, man, il y a toujours du monde qui vont chialer. » Puis des fois, je regrette. Des fois, il y a des affaires que je fais, puis... J'ai des discussions avec des gens, puis je suis comme, ah ouais, t'as raison, tu sais, j'ai pas un ego de faire comme, yo, tu sais, oui, liberté d'expression, c'est une chose, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'on peut faire pas mal n'importe quel joke, tant que c'est pas ultra diffamatoire, tu sais. Mais après, il y a des jokes de mauvais goût, il y a des jokes que je fais, ça valait-tu la peine? C'est correct de se questionner, tu sais, dans ce cas-ci, c'était pas une grosse joke, honnêtement, c'était plus une idée cave de 3 secondes, ça a fait réagir. On tourne la page.
Ben, c'est une question de timing aussi. Tu le sors dans le dread dans le bon moment, fait que ça marche, fait qu'il y a ça qui...
T'sais, ça a généré 5 millions de vues total. Je pense que je le savais en le faisant que c'était comme... Soit je le fais là ou je le fais jamais, tu sais, dans le sens...
C'était là.
C'était là.
Puis toi, c'est quoi ton think par rapport à tout ce qui se passe, la montée de la droite, Trump qui dit aux États-Unis, il y a juste les hommes puis les femmes, les trans, c'est plus, c'est fini, tout ça?
Ben, tu sais, il y a plein de questions en une. C'est un phénomène qu'on observe un peu partout. En Europe, là, au Canada, les conservateurs semblent en bonne posture aussi. Trump, une espèce de mouvance de la droite. Moi, je remarque que la droite est de plus en plus décomplexée. C'est intéressant de l'analyser dans son ensemble. Pourquoi est-ce qu'on est rendu là socialement, ouais. À travers la planète? Est-ce qu'il y en a qui parlent d'un backlash du wokisme?
Ouais, on est-tu trop à la gauche, selon toi?
Je sais pas, mais... À mon sens, non, dans le sens où j'ai l'impression que ça reste un peu le... Pour moi, c'est plus une affaire de classe. T'sais, je crois que c'est vraiment le capitalisme qui dirige le monde. Puis le capitalisme, ça vient que c'est bon côté, mais c'est mauvais aussi d'exploitation puis d'inégalité, t'sais, dans le sens que ça garde les gens riches très riches, puis ça garde les pauvres en situation d'exploitation, justement. Donc, tu sais, je suis pas super expert en la question, mais clairement, moi, ça m'inquiète de voir... des discours haineux liés à la droite, que ça soit contre les personnes trans, contre certaines minorités en lien avec l'immigration aux États-Unis. T'sais. Nous, c'est une autre réalité au Canada, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de racisme et il y en a de plus en plus. Puis c'est comme si le fait qu'un gars comme Trump, qui agit comme un bully, littéralement comme un intimidateur dans ses communications, dans sa manière d'invectiver les autres partis politiques, dans sa manière de dire des choses très, très de manière crue. Il y en a qui adorent ça, ce côté-là cru.
Mais c'est ça l'affaire, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça parce que justement, c'est le côté naturel que tu vois pas des autres politiciens. Il y a
oui,
l'air d'un...
C'est ça sort de la cassette politique. Puis je pense que c'est un des gros charmes de Trump, c'est que c'est son côté imprévisible. Puis genre, il dit des trucs qui sont tellement quotable qu'il y a plein de gens qui trippent là-dessus. C'est juste qu'au début, c'était un meme, Trump. Puis là, il rentre au pouvoir, commence à signer des décrets inquiétants. Il s'entoure de milliardaires qui n'ont pas nécessairement les intérêts du peuple à cœur. Il est en train de monter une oligarchie. Il est en train de faire des menaces qui sont de plus en plus sérieuses. Puis est-ce que ça va servir la population? On s'en reparlera dans 4 ans. Moi, j'ai peur que non. J'ai peur que ça désagrège encore plus le climat social. C'est ça ma réelle peur.
Encore plus d'inégalité.
Encore plus d'inégalité, encore plus de friction, encore plus de haine, encore plus de préjudice face à certains groupes marginalisés. Puis les réseaux sociaux, en ce moment, tu vois tous les géants du web qui sont en train d'y licher le cul comme des petits chiens qui étaient là à son inauguration en mode, en mode opportuniste. Là, c'est Trump le boss, pas de problème, mon chum.
On est là,
puis... Puis Trump qui veut tout déréglementer, puis donner un petit peu les clés de la Maison-Blanche à des multimilliardaires qui ont... Moi, je questionne les intérêts de ces gens-là. T'sais, pour moi, aller sur Mars en ce moment, c'est pas une priorité. Je sais pas pour vous. Pour moi, enlever la modération sur ces réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui va mener à plus de paix.
Si c'est pour aller sur Mars avec l'argent de Mars, t'sais, au privé, pourquoi pas?
Ouais,
si c'est avec l'argent du gouvernement, peut-être moins, mais tu sais, qui sait qu'il y a peut-être des matériaux, des matières premières, des affaires de même qu'on pourrait ramener.
Je dis pas qu'il faut pas investir dans l'espace. Puis tu peux faire un et l'autre en même temps, mais tu sais, Trump a eu énormément de contrats dans la précédente administration de Biden. Fait que là, on peut juste voir un conflit d'intérêts ayant l'homme le plus riche au monde, qui a plusieurs entreprises qui développent le AI. Bon, les autos électriques, évidemment, le Neuralink, le SpaceX. Puis là, il est littéralement dans le bureau de Trump sans avoir été élu démocratiquement. Pour moi, dans une démocratie, c'est pas sain, cette espèce de...
Passe droit.
Ben, tu sais, je veux dire...
Il va être ministre, là.
Ben, le Doge, là. Il va être comme ministère du...
politique, là. Gouvernementale.
Il va juste se mettre à couper des organismes qui font pas son affaire, environnementaux, diversité, inclusion.
Diversité culturelle, ouais, c'est ça.
Puis il va aller couper une couple de milliards. Mais après ça, il a pas été élu, tu sais. C'est pas un représentant.
C'est ça qui est fou.
C'est un ami à Trump. Qui est aussi, parenthèse, l'homme le plus riche au monde. Ouais, fait que c'est fucked up, qui encourage aussi des partis de droite en Europe et qui fait des saluts romains.
Puis qui est AFD, qui est un extrême droit.
Tu sais, il est propriétaire de Twitter aussi, là. C'est puissant tabarnak quand t'es propriétaire d'un...
Puis là, il y a des rumeurs qu'il voudrait acheter TikTok, là, parce que, tu sais, ils ont mis un sursis sur la vente. Pour qu'il y ait un 50% d'actionnaires américains.
C'est genre le gars que ça va trop bien à Monopoly, là, puis qui fait chier tout le monde.
Ben, c'est parce qu'il y a des lois aussi aux États-Unis antitrust, comme contre le pour qu'il y ait de la concurrence, en fait. Tu peux pas avoir trop de monopole. Puis en ce moment, en tout cas, à mon sens, je suis pas un expert, mais il commence à avoir conflit d'intérêts.
C'est ça, comme pour un humoriste, là, tu vois-tu ça comme du bon jus ou c'est déjà quelque chose d'ultra cliché?
Bon jus, tu sais, de mon nouveau spectacle, arnaudfilly.com.
J'ai été fort là-dessus.
Asti qui est fort.
Chris
qui est fort. C'est le meilleur plugger de l'histoire du podcast. C'est beau. Ça va, Yeti? Yes. Comme tout ce qui brasse de l'émotif chez les gens, clairement, la question Trump, je pense que ça... Les gens se sentent concernés plus que jamais. Puis surtout depuis qu'il fait des menaces d'annexer le Canada. Je pense qu'on est plus concernés. Les tarifs, tu sais, là, à l'heure où on se parle...
TVA, hein?
Ben, c'est parce qu'honnêtement, ça éclipse tout le reste du politique. Tu sais, même, t'es un politicien au Québec, t'es comme... Parce que nous, on a des dossiers, man. C'est comme Trump, c'est une machine à faire parler.
C'est comme un influenceur.
Littéralement comme un influenceur qui sait comment contrôler l'attention médiatique. C'est le plus grand génie de l'histoire pour faire ça, rester au centre des médias. Toujours est-il, ça influence. T'sais, moi, je trouve qu'il y a des étapes. Il y a un bout où est-ce que, mettons, moi, la semaine passée, l'actualité politique, ça m'a plus déprimé que d'autres choses. On dirait que c'était too much, là, l'inauguration. Puis, tu sais, Trump, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis là, c'est dans les journaux. T'ouvres la télé, t'ouvres la radio, t'ouvres ton téléphone, tous les réseaux sociaux. Mané, j'ai fait « Ouf, man, petit break, déconnecte, va prendre une marche. » Probablement que dans un petit bout, je vais être capable de transformer ça en joke.
C'est ça.
Mais moi, salut, ça me prend. Un petit salut, Romain, sur le side.
un petit salut, on l'essaie.
Ben oui.
Mais tu sais,
Michael Jordan, il disait genre, les républicains achètent des Jordan, puis les démocrates achètent des Jordan, en voulant dire, moi, j'ai pas envie de donner mon opinion politique, ouais, parce que, genre, je suis, tout le monde, je veux que ce soit mon public.
Ouais.
Fait que je me demande, comme un humoriste, ben c'est vrai que c'est bon de pousser des limites, mais en même temps, tu te dis, moi, je fais de l'art puis de l'humour. Est-ce que si j'ai trop une opinion tranchée, ou genre, ça va-tu.
Mais à un moment donné, c'est une affaire de valeur aussi. Tu sais, il y a manière. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui, surtout, mettons, dans l'époque du débat national, tu sais, dans les années 90, quand c'était plus le oui, le non, la souveraineté, qui était vraiment une question qui divisait 50-50 le Québec. Là, on s'entend, on avait les chiffres. Il y a beaucoup d'humoristes qui se mouillaient pas dans l'humour politique, je pense, de peur de s'aliéner la moitié de la population.
Ben oui.
Trump, au Québec, il doit avoir un taux de popularité de 10-15%, là, j'ai pas les chiffres, mais tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais, je pense que de critiquer Trump, c'est pas autant clivant que, genre, parler de souveraineté, exemple.
Ouais, ouais. C'est moins impliqué dans la population ici, vu que c'est à l'extérieur.
Exact. Aux States, tu vois, les humoristes sont plus de gauche, tu sais, de traditionnellement, mais là, il y a de plus en plus de montées d'humoristes de droite. On l'a vu avec la tournée de podcast de Trump, où est-ce que... Il y en a qui vont se dire neutre un peu, là, tu sais, whatever, des Theo Von, ça, mais on sent qu'il y a comme une espèce d'ouverture à la droite qu'il n'y avait pas nécessairement avant à Hollywood.
Mais aussi, ils sont tous partis d'Hollywood, là, ils sont rendus au Texas, ouais, c'est veut, pas, et ça doit avoir un impact aussi.
T'as raison, ça bouge un petit peu, cette espèce d'élite-là hollywoodienne est peut-être en train de mourir. Fait que, pour répondre à ta question... Je pense que le plus important, c'est de parler avec son cœur et ses valeurs. Après, j'ai fait la paix avec le fait que je ne vais pas plaire à tout le monde. Je veux pas que tout le monde m'aime. Je veux être bien avec ce que je dis. Il y en a qui ne m'aimeront pas pour des positions que j'ai abordées ou des sujets. Mais d'un autre côté, il y a du monde qui vont me dire « Moi, je t'aime pas parce que tu n'es pas assez politique. » Mais tu vois, tu ne peux pas plaire à tout le monde jamais.
T'sais. Ouais, c'est ça.
Maintenant, il faut juste faire ce que tu aimes.
Ben oui, ben oui.
C'est ça. Moi, j'ai réalisé ça avec les podcasts. Si tu essaies d'être neutre, tout le monde va être en crise après toi. Il y a comme pas vraiment...
Mais ça n'existe pas, la neutralité.
Tu peux
décider de ne pas embarquer dans des sujets volontairement.
Mettre une opinion.
Puis à un moment donné, ce n'est pas de la censure de ne pas parler de tout.
Mm-hmm.
Dans la vie, on se censure tout le temps. Tu sais, le matin, tu sors dans la rue, tu vois une belle fille. Tu lui dis pas nécessairement, tu sais, on se censure, on n'en va pas chier quelqu'un parce que, tu sais, ça s'appelle la civilité, ça s'appelle choisir ses combats, ça s'appelle... Fait que, je sais pas, mais tu sais...
C'est quoi les sujets que t'évites le plus de parler sur les médias? As-tu des sujets?
Ben, c'est parce que moi, j'ai eu des traumas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'était les conspis, là, tu sais, comme pendant la COVID, quand j'avais fait...
Ouais, toi, tu t'étais fait ramasser.
J'avais fait deux vidéos particulièrement virales. La première, c'était genre un conspirationniste, tu sais. Je parodiais vraiment les vidéos de, comme, musique énigmatique, puis je disais que la COVID venait de Montréal. Puis là, j'expliquais ça avec plein d'espèces de raccourcis intellectuels stretchés. Mais c'était vraiment un gag. Fait que ça, je m'étais fait quand même ramasser, mais overall, les gens avaient compris le niveau. Puis là, après ça, c'était quand ils avaient obligé les masques d'un commerce. Fait qu'on est au début, là. J'avais fait mon personnage du gars fâché dans son char, là, mon genre de réac là, qui crie tout le temps. Puis là, je disais aux gens... En gros, je riais du monde qui chialait de mettre le masque en disant « Man, ça change quoi? » Tu sais, parce que... C'était la première journée, puis ça sortait, là, genre, il y avait une vidéo d'une petite caissière au Super C, là, qui s'était faite, comme, engueuler parce que elle demandait au gars de mettre son masque, je sais pas quoi,
c'était
là.
C'était tendu,
mon homme!
Ouais.
Puis moi, j'étais genre... Fait que j'ai fait cette vidéo-là, mais c'était comme si c'était un sujet tellement sensible. En tout cas, man, je me suis fait ramasser, mon gars, là. C'était genre... Puis aux minutes, j'avais des menaces de mort dans mes inbox, là. Ouais. J'étais genre... Ouf, OK, on va prendre un petit break d'Internet, là. Est-ce que le monde n'allait pas bien, là?
Tu vis comment avec des menaces de mort?
Pas bien, mais tu sais, après ça, au début, je répondais aux gens tout le temps. Puis tu sais, généralement, quand tu réponds aux gens, ils dîment d'une coche tout de suite, là. Tu sais, c'était genre, hey, si je te vois dans la rue, je te ramasse. Je suis comme, bonjour, ce message est très violent. Puis là, OK, ben... là, ils répondent genre, OK, mais je savais pas que... tu lisais tes messages. Mais en tout cas, je suis pas d'accord avec toi, mais là, tu sais.
Mais pourquoi tu fais ça? Si, je savais pas que tu lisais tes messages. Mais écris-le pas.
Mais ça, c'est un manque d'éducation virtuelle. T'sais. C'est comme de penser que c'est juste comme si tu potines avec quelqu'un à lui, tabarnak. Tu sais, moi aussi, là, si je parle avec mes amis, là, je peux dire des affaires que je ferais pas, mais il y a une différence entre le dire, le taper, puis le taper dans la boîte privée de quelqu'un.
Puis si tu penses qu'il l'ira pas, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que ça te change de faire? T'es un asti d'épée, je vais te sauter dessus.
Au début, j'étais craqué. Il y a une couple de monde que je faisais juste comme repost leurs messages avec leur face. Puis là, ils étaient comme, non, ce que je suis, please, supprime, là, je m'excuse. Ma mère est avocate. Puis là, j'étais genre, OK, guys, là, faut owner, là.
T'es-tu déjà arrivé à appeler la police?
Je me suis pas rendu là. C'est bon. Oh, je me suis demandé, là, j'ai parlé à du monde. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste comme shut down mes réseaux. J'ai vraiment pris un break d'un mois. J'ai demandé à ma blonde de lire mes messages. Ma blonde, je lisais plus mes messages. Fait que ma blonde, elle triait. Puis aussi pour me rappeler que j'avais beaucoup de bons messages. Parce qu'à un moment donné, tu deviens tellement affecté par le négatif que tu as l'impression que tout le monde veut te tuer. J'étais quasiment parano. Cette journée-là, je voulais pas sortir de chez nous. J'étais comme, on va me faire ramasser à l'épicerie, là, tu sais.
Ouais, puis tout ça n'existe pas dans la vraie vie, c'est ça qui est fou.
Rarement, là, je pense. Mais ça, ça a été vraiment le pire pour rester quelque chose de finalement assez anodin, là, tu sais, un masque, je veux dire. C'est juste que dans mon personnage, je criais après le monde, fait qu'il se sentait tellement attaqué qu'il me répondait avec la même violence. Wow. Sans comprendre que j'étais un personnage, que c'était des gags.
Chris,
tu sais. Mais après ça, j'ai eu plein de petites affaires, mais overall, je pense pas que je suis l'humoriste le plus controversé. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des sujets sensibles où est-ce que des fois, je suis comme... Moi, j'ai eu mes petits traumas sur le web, puis je suis comme, des fois, ça vaut pas l'énergie de me prononcer là-dessus, à moins que j'ai un asti de bon gag. T'sais, si le gag me fait rire, souvent, je vais y aller, mais tu sais, si c'est juste de mettre mon grain de sel pour mettre mon grain de sel, je calcule plus le risque avant. Je suis un peu, là, c'est peut-être la maturité qui rentre en jeu, mais aussi, je le sais que ça a fait, moi, j'ai été une semaine à terre, pas bien, là.
Ah, c'est vraiment de la merde. Moi, je comprends pas le monde. Ben, tu sais, pas nécessairement nommer de nom, mais tu sais, le monde qui sont fait cancel puis qui décident de revenir puis que là, ils bûchent puis là, que tu sais, tout le monde les continue à les détester. Genre, moi, je comprends pas cette motivation-là d'aller à contre-courant puis de revenir. On dirait, moi, si tout le monde m'haïssait puis voudrait plus que je m'exprime, je ferais juste faire, ben, je vais me trouver d'autres choses, là, style. Je vais pas pousser dans la face au monde de non, esti, faut que j'existe puis je vais être là à un moment donné.
Mais j'ai le feeling que, tu sais, les gens qui reviennent, si. C'est une impression, là, mais si oui, ils ont un backlash puis du négatif, des gens qui s'acharnent à dire « Hey, t'es pas le bienvenu dans la sphère publique », parallèlement à ça, ils ont des gens qui sont comme « Merci de revenir, je t'attendais », tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des humoristes qui remplissent leur salle, tu sais, qui ont été cancellés, qui ont pas eu de procès, tout ça. Ça s'est un petit peu terminé dans une espèce de procès public, puis il y a du monde en tabarnak des voir sur des marquises de théâtre, mais les salles sont pleines. Après, c'est les diffuseurs un peu qui décident, c'est les producteurs. T'sais. C'est comme. C'est eux qui prennent le pari d'inviter une personnalité controversée.
T'sais. Ouais. T'es une personne créative, originale. Je me demandais comment. C'est quoi ton style pour te trimer à la poche?
Bonne question. Tu vas-tu me donner un Manscape?
Non.
J'attendais le cadeau. Un peu de jazz. Un scotch. Trois miroirs. Non. Relax, dans la douche.
T'es-tu genre touffu, tu traces ça à la poche?
Ah non, ok, non, je le mets à 3, moi, le clip.
Ok.
Ben, 3, c'est pas si gros, là. C'est-tu 3 ou... Fait que j'ai un petit piou, c'est vraiment ça ta question, mec? Oh? J'adore ça.
Oh, ouais, oh, ouais. Tu laisses ça à 3, toi?
Ouais, j'aime pas ça pour le bébé sur le pubis, là.
Pas direct sur le cuir, toi.
Non.
Okay. Tu traces pas les gosses au bic, mettons?
Ah, les gosses, je suis capable d'aller finir au bic, ouais. J'aime okay. pas ça, c'est parce que moi, je vais être genre à avoir genre... Le... J'aime les gars à technique, ils sont comme yes, je te file. Mais des fois, je vais avoir genre un long poil, tu sais, je trouve ça laid, là. Okay, c'est okay. Gosse, je suis plus un peu.
Ça soit genre.
Ouais, tu sais, j'ai plus, on dirait, les cheveux à René Lévesque, là, ces bases, ah, là. Okay, fait que des ouais, genres ouais. de longs dégarnis.
C'était le pire exemple, les cheveux à René Lévesque.
Ouais, ouais. Mais Chris, parlant de ta poche, dans ton show Bon Jus,
ouais.
Tu nous parles que ton jus, à toi, il est pas très bon parce que t'as dû faire affaire avec la science
ouais.
pour avoir tes deux enfants.
Mm-hmm.
Ça, c'est un number, là. C'est-tu un number vu que c'est un sujet plus sérieux? C'est-tu ouais. plus difficile? difficile à construire pour aller faire rire les gens. Puis c'est quoi l'histoire? Genre, comment ça a fait? Comment t'es
avec tes enfants? En fait, c'est pas que j'ai pas du bon jus, mais c'est qu'en fait, puis ça, je veux pas le spoiler. Puis je me suis dit, je veux garder un petit peu de mystère pour le show, mais je parle du processus en procréation assistée. C'est ma blonde et moi qui se sont embarqués là-dedans. Après 2 ans qu'on a commencé à essayer de concevoir, ça marchait pas. On a décidé d'aller en clinique de procréation assistée, puis on s'est mis à faire des tests. Puis là, ça a pris plusieurs inséminations avant que ça fonctionne. Quand j'ai commencé à écrire ce numéro-là, je savais tellement pas comment ça allait passer parce que, oui, le sujet, il est super, pas super dark, mais il est comme triste, tu sais. Nous, ça finit bien, on a 2 enfants, mais c'est un sujet, je sais, qui peut faire une écho négative chez les gens parce qu'il y a des gens qui sont en processus qui réussissent pas, tu sais, qui passent par le in vitro, qui s'arrêtent.
Ça coûte cher, ça, non? Mettons, si tu réussis pas, tu peux dépenser beaucoup d'argent sans avoir aucun résultat.
En ce moment, que je sache, l'insémination est encore couverte par la RAMQ, mais in vitro, c'est privé. Puis là, tu es dans 5 000, je pense, juste ouvrir un dossier.
Okay.
Puis in vitro, c'est qu'ils vont retirer l'ovule. Il froze, puis là, il insémine à l'extérieur du corps, puis là, il leur pop. Alors qu'insémination, c'est vraiment juste, ils vont mettre le sperme comme ils l'injectent.
Ah, bonne
place. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils centrifugent le sperme pour aller chercher les plus forts. Puis là, c'est-à-dire il y a un plus grand contrôle que juste comme fourrer selon ton cycle, mettons.
Puis toi, as-tu des sentiments comme d'impuissance de devoir avoir à recourir à ces procédures-là?
Non, honnêtement, ma blonde puis moi, c'est bizarre parce qu'au début, on s'est rendu compte qu'on avait juste honte. Pas honte, mais on se sentait juste triste de ne pas être capable. On se sentait juste inadéquat. Puis c'est un drôle de feeling parce que ça vient juste teinter ta vie d'une genre de tristesse de comme pourquoi qu'on n'est pas capable? On n'est-tu pas bon? On n'est-tu pas fait pour être ensemble? Tu sais, il y a une espèce d'injustice puis de fatalité là-dedans que t'es juste comme pourquoi que nous, on n'est pas capable alors que le monde à gauche, à droite. Tu penses que tout le monde est capable de faire des kids sauf toi quand t'es là-dedans? Puis check bien ça, 2 ans à peu près après qu'on est dans ces problèmes-là, on soupe avec des amis puis on finit. Puis on n'avait jamais parlé à notre chum. Puis on n'avait parlé à presque personne parce que ça vient avec de la honte souvent.
Wow.
Puis on en parle à un bon couple d'amis. Hey, c'est ça, on est en procréation assistée, tout ça, c'est compliqué. On est suivi à telle place. Puis ils font, hey, nous aussi, ça fait autant. Même affaire, ça fait 2 ans, on est à la même place, tu sais. Puis là, ouais. Tu te rends compte que, Chris, OK, puis là, t'en parles à d'autres mondes, puis, ah ouais, nous aussi, on vit ça, puis, ah ouais, nous aussi. Pis là, tu te rends compte que, Chris, c'est pas que c'est rare, c'est que toute personne en parle, parce qu'il y a quelque chose de vraiment downer aussi. C'est comme si tu veux pas alourdir la conversation avec ça. On dirait que c'est comme juste un mauvais sujet. Je sais pas, mais je réalise vraiment que c'est un truc ultra répandu, puis depuis que je fais le show, je parle aux gens après les spectacles. Il y a tellement de monde qui ont des histoires similaires. Écoute, je racontais mon spermogramme à Sainte-Justine, puis il y a un gars, il vient me voir, puis il est comme, « Man, j'étais là un matin! » Un spermogramme, c'est vraiment genre un test de sperme, genre qui vont comme monitorer la qualité de ta dèche.
C'est-tu comme genre...
Grizzly, je peux te faire un petit peu d'eau, Bic?
Ouais. Oui, bien sûr. Puis c'était une question...
Ouais, j'ai une question, moi, pour... sur le sperme.
Ah, cool!
comment ça se passe, le moment pour donner son sperme?
Pour le donner?
Ouais, bah pour le mettre dans le petit récipient.
Mais c'est vrai de ça que j'allais demander. Ah, il est-tu, on connaît, quand même?
Comment? Tu des revues, tu vois, si ton sel, c'est pas
grave. Ouais, OK, fait que ça dépend des places. Quand je l'ai faite, mettons, après ma vasectomie... Parce que moi, je suis vasectomisé, il faut que tu te fasses un spermogramme. Puis eux, il y avait un genre de télé intelligente, OK? Mais j'étais pas capable de connecter parce que la manette, elle marchait pas. Fait qu'il fallait faire des commandes vocales. Puis c'était ouvert sur YouPorn. Puis la télé est ouverte, mais t'es genre avec la manette. Puis là, t'es comme... Gang bang! Debout de même. Puis là, un moment donné, j'ai fait... Hey, fuck that, ça marchait pas. Puis j'étais comme, je vais pas aller... chercher le gars du desk là, pour qu'il m'arrange ma télé intelligente. Merci.
Fixe ma porn, s'il te plaît.
Ça, c'était bizarre. Fait que finalement, j'en ai checké sur mon cell. Puis c'est un peu sketch, honnêtement. T'sais, c'est des pots. Faut que tu remplisses des pots qui sont comme assez standard d'hôpital. J'imagine que c'est le même pot que urine ou whatever. Oh, là. Ouais, c'est le pot de test. Là. Moins gros que ça. Fait que tu sais, il faut quand même... Puis il te donne juste comme le pot puis genre un carré de papier brun, là.
Hey, oh, c'est un bout du bat, ça?
Ben oui, en mode.
Puis, mais ça, c'est pas absorbant du papier brun.
Non, non, le papier brun, c'est juste pour wiper s'il y a de quoi, mais faut vraiment okay, que,
ben,
comme.
Faut, c'est vrai, faut que tu vises dedans.
Tu viennes, mais tu sais, moi, je suis venu. Ah là, c'est beaucoup de détails, mais je suis venu me l'accoter un peu dedans. Parce que c'est comme no way que je vise, là.
Oh, ouais, non.
Ça va partir ses murs, là.
Ben oui.
Fait que là, tu viens te la coter dedans un peu, puis là, tu vas juste comme...
comme un couteau de margarine.
Ouais, exact. La petite goutte sur le rebord. Mm. Là, t'es comme, j'ai fait ce que j'ai pu.
Puis t'avais-tu demandé de pas te crosser deux semaines avant pour que t'aies un esti de jet ou...
Ouais, mais pour la vasectomie, surtout, il y avait un enjeu de... Fallait venir un certain nombre de fois.
Ah ouais?
Je pense... Ouais, je vais pas dire n'importe quoi.
C'est genre, t'as une prescription de...
Il fallait que je vienne un nombre de fois. Moi, dans un monde idéal, je viens tous les jours. Ça, c'est ma fréquence, là, ouais, à peu près. Là, avec ma... Fait que là, mais là, je me rappelle plus c'était quoi. Mais avant les spermogrammes à Sainte-Justine, il y avait peut-être une affaire de deux jours sans venir, ouais, pour être sûr d'avoir un bon échantillon. Mais c'était pas une affaire de genre un mois, là.
Okay, okay,
c'était
okay.
Pas genre...
Une implosion.
Faut aussi. Que tu me remplisses ces deux litres-là.
Ouais. Si tu es indiscret, tu t'as demandé si ça t'a coûté combien toute la procréation de tes bébés au total?
Ben nous, comme on est juste passé par le. On s'est pas rendu au in vitro, fait qu'on est resté dans le public. Fait que ça a rien coûté, man.
Ça a coûté gratis.
Fait que shout out à la RAMQ quand même. Ah, parce
ça,
que
c'est cool.
C'est, on chiale beaucoup au Québec avec raison que les urgences, c'est un cauchemar, les hôpitaux. Tabarnak, man. Beaucoup d'affaires couvertes. Tu sais, au state, là, je sais pas combien ça coûte. Genre,
ça doit être super cher.
Procréation assistée, mais j'imagine c'est 50 000 US.
T'as-tu ouais. fermé à chat, puis c'est fini, t'en as eu deux?
Ouais,
t'en
je suis vasectomisé. Ouais,
ok, ok,
ouais,
ouais, c'est
terminé. Ouais.
Wow. Ça, ça baisse-tu la libido ou ça a aucun.
Genre...
Ok.
Non, puis même, tu sais, j'en parle dans mon show, mais moi, je pensais que quand tu faisais vasectomiser, je pensais que tu venais plus, genre. Je pensais que ça coupait le canal, genre, que genre, tu venais comme sec, genre, comme. C'est juste comme. Mais.
Ça change rien.
Non, ça change pas encore.
Quand t'es allé te
faire. C'est juste tu viens du sperme stérile.
Mais il n'y a pas de. Genre, le liquide, il est semblable. Tu verrais pas, tu pourrais pas le savoir.
À l'aveugle, mon gars,
tu serais pas,
pas capable.
Puis,
quand t'es allé te faire vasectomiser, t'avais-tu peur?
Un peu, ouais. J'avais peur, ça. Ben, tu sais, je m'étais renseigné, puis à cette heure. Parce que dans le fond, on a vu les vasectomies du temps de nos parents. Je sais pas pour vous, là, mais tu sais, genre, le fameux genre sac de petits pois congelés dans les culottes, puis genre. Marche comme un genre comme si t'es fait enculer là genre il marche
moi je me souviens très bien de mon père quand il était revenu de ça genre j'ai très l'image dans ma tête avec ses grosses gosses bien enflées
ouais pis... ouais de même dans le divan là puis genre Monique va me chercher de la crème glacée
c'était vraiment ça
genre
là,
trois jours devant c'est plus ça man à cette heure c'est la technologie est changée c'est genre le docteur là, je l'ai souvent compté mais genre il était vraiment chummy fait que là je pense qu'il il te passe juste un genre de petit truc pour, j'imagine, désinfecter. Puis je sais pas si ça gèle un peu la peau, mais c'est genre instantané. Puis là, il se met à me parler. Puis là, il est comme « Yo, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu sais, il était jeune. Il est comme « Yo, what? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Là, je dis « Ah, je suis humoriste. » Il est comme « Ah, cool. Je... » Là, j'entends comme un genre de petit... Comme un petit élastique, genre... Là, je suis comme « OK, qu'est-ce qu'il fait? » Il est comme « C'est fini. » Genre, on venait de s'installer. Puis il est comme « Yo. » Et là, il se lève. No joke, il me lâche le bat, il va me rajouter sur Instagram direct. Il est comme, oh Chris, hein, t'as beaucoup d'abonnés, c'est nice. Genre, lave-toi les mains,
même pas. Ah, ouais.
Il ça, est comme, c'est tout.
Tu fais jamais des
genre. Je te jure, 5 minutes.
Tu sors jamais un alibi dans des situations de même, de genre, tu sais, mais ça, moi, j'aurais pas dit que je suis humoriste dans ce cas-là, j'aurais fait genre, yo, je travaille en marketing.
Tu sais, j'aurais peur que, mettons, ouais, c'est ça, je dis, je suis vétérinaire, ah, comme ma blonde, tu travailles où? genre, non, je dis.
Oh, honnête.
Il faisait du small talk, mais moi, je pensais que j'étais là pour une heure. Là. Ah, il dit, assis-toi, je pense, une demi-heure dans la salle pour être sûr que tu passes tard pas, là, ou genre 15 minutes. Parce que des fois, il y en a peut-être qui ont des chutes de pression. Puis après ça, il est genre, dans 3 mois, tu fais un...
Non, ouais.
Ouais, c'est vraiment facile. Mais ouais, je l'ai fait au privé, là, ça, par exemple. Ça a coûté genre 700$. Parce qu'au public, je pense que les files d'attente, c'est genre...
C'est long.
Infini, là.
Mais moi, j'ai entendu que la vasectomie chez l'homme, ça pouvait être réversible. On peut le...
Alors, ouais. Ouais.
Chez les femmes.
Chez l'homme, ouais, je pense qu'ils disent 50% sur le site. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est plus... c'est le taux de réussite. Mais... Ouais, mais oui, il semblerait. Parce que c'est vraiment un canal. Fait qu'après ça, ils peuvent aller le.
Ouais, c'était l'info du Yeti.
Ben, tout ça nous mène à notre segment. Ah! célibataire! Présenté par nos fameux Eros et compagnie.com, baby. Avec le break 15, mon beau Arnaud, t'as 15% de rabais sur tout. Fait qu'on aimerait ça que tu nous racontes une histoire cocasse de célibataire ou de date. Ou... C'est sûr que t'as des anecdotes fucked up, toi, Esti.
Hey, pas tant que ça.
Même t'es en couple depuis longtemps.
Ça fait 13 ans que j'étais avec ma blonde, mais j'ai été célibataire une couple d'années. Histoire fucked up, on the spot. Qu'est-ce qui était fucked up de sexe?
Mais pas nécessairement de sexe aussi.
Ah, de célibat.
Ça peut être une mauvaise date, tu sais, c'est pas... Le monde pense qu'on parle tout le temps
ben
de
moi,
sexe.
Moi, je faisais pas de date tant que ça. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je travaillais dans un bar. J'étais barman, puis je rencontrais 100% des filles comme au bar.
Ah ouais?
Ben presque, tu sais, dans le sens où soit pendant que je travaillais ou soit les journées que je travaillais
t'es
pas, j'étais
au spot pour ça là.
Ben oui, puis tu sais dans le sens, man, j'avais 20 ans.
Mais fait que c'était pas tout le temps des one night, ça veut dire.
C'était beaucoup des one night, mais non, c'est pas vrai. Il y en a qui se sont transformés en relations. Okay. Puis sinon, c'est que je tombais en amour. Ben tu sais, moi j'étais un lover, fait que tu sais, c'est comme si j'avais un petit peu mes deux personnages, j'avais mon fuckboy de bar un peu en mode pas d'attachement parce que je suis zéro le même d'envie là, tu sais, je suis vraiment un super sensible, mais par genre de mimétisme, tu remarques qu'on dirait que c'est ça qui marche avec les filles dans cet environnement-là, le petit côté « je m'en crisse ». Fait que moi, j'essayais de jouer au tough, tu sais, au gars qui s'en torche. Ouais. Alors que moi, j'étais un lover, man. Je tombais en amour de même. Fait que ça me ressemblait pas beaucoup. J'étais pas très heureux dans ce genre de relation-là éphémère. Sinon, moindrement que j'avais plus que 3 dates avec une fille, je tombais en amour. Tu sais, j'étais un peu... pas creep là, mais tu sais genre j'étais genre à dessiner les filles que j'aimais là, leur donner des poèmes, tu sais, très
ok, t'es un cute là,
vraiment un petit lover là.
Puis quand t'as rencontré ta blonde d'aujourd'hui là, ouais. Est-ce que c'est tant que je me pose ces questions là, est-ce que c'est que t'as-tu l'impression que c'était le bon moment où ce que t'étais prêt à travailler pour une relation puis à être en couple, ou si c'est vraiment elle qui était spéciale, genre tu comprends-tu
ouais.
Un peu ma question,
c'est un mix des deux. Quand je l'ai rencontré, ma blonde, je l'avais déjà stalké beaucoup parce que c'était la coloc d'une fille avec qui j'allais à l'école. Puis la fille dans mon cours, elle dit « Hey man », elle savait que j'étais célibataire. Elle dit « Hey man, ma coloc est fucking nice, tu l'aimerais bien. » Là, je suis comme « Ok », je la checkais sur Facebook, j'étais comme « Magnifique, tu sais. » Mais ça reste là, je la rencontre pas de l'année scolaire. Je la croise dans un parc avec la fille avec qui je vais à l'école l'été d'après. Puis je suis comme « Oh, c'est vraiment gros coup de foot, genre comme physique, là. » Mais ça reste là, puis on s'échange nos numéros, puis on finit par se voir, mais ça, elle sort d'une relation, moi aussi j'avais un petit truc, puis je m'attache, tu sais, genre, elle me fait triper, elle est plus vieille que moi, je la trouve belle, hot, j'aime ses goûts musicaux, je la trouve sexe, je la trouve...
Combien de plus vieux que toi?
6 ans.
Oh ouais? Oh,
ouais. 5 ans.
Quand?
Ouais, j'ai 35 okay. À 40, ouais. Puis, mais à ce moment-là, on se retourne, j'avais 21...
Wow,
ouais. 27.
26.
Ça t'intimidait ça un peu à 21 ans, une fille
comment?
De 20... Genre, ça t'intimidait ça un peu à 21, une fille de 27?
Oui, puis non. Oui, parce que je sentais qu'elle avait plus de vécu. Elle avait eu des longues relations. Moi, j'avais eu des petites affaires. Elle avait plus de vécu. Elle venait de... professionnellement, tout ça. Je sais pas, plein d'affaires. Mais ça m'excitait. T'sais, j'étais comme... J'ai toujours été attiré, je pense, vers les gens qui... J'aime ça me sentir petit devant quelqu'un. Pour moi, c'est ça, être en amour un peu. C'est comme shaker devant quelqu'un. Ah, oh, wow. Puis tu vois, on commence à se dater une couple de mois. Puis à l'automne, je me rappelle, puis moi, tout le long, c'était ma date, là. C'était pas ma blonde, mais je m'étais gardé en tête, les filles aiment les fuckboys. Fait que tu sais, je disais des trucs méchants des fois, ou genre, mettons, on marchait dans la rue, puis j'étais comme, ah, tu vois la fille là-bas, j'ai déjà couché avec. Tu sais, je disais des affaires
oh,
comme...
Ouais.
C'était pas vrai?
Ouais, c'est vrai.
Ok, c'est
non,
vrai.
Non, mais tu sais, juste pour comme la rendre jalouse ou pour montrer que j'étais genre.
Que t'étais hot toutou. Là,
hot,
là.
Puis j'essayais de me montrer que j'étais vieux moi aussi. Puis wow. Dans ma tête, être okay, vieux, okay. C'était être un salaud un peu. Mm. Puis à un moment donné, comme tu sais, c'est juste méchant ce que tu dis. Pourquoi tu me dis ça? C'est pas... Puis moi, j'étais comme. Ah. Puis bref, en octobre, on va au cinéma. Puis après ça, comme tu sais, by the way, je sens que nous deux, tu sais, c'est pas sérieux. Puis tu sais. C'était comme un beau flirt, mais là, on dirait changement de saison. Comme. Elle est en train un petit peu de me caller off. Puis, man, moi, je me mets à pleurer, là. Puis, j'étais comme... je t'aime. Puis, j'étais comme... Ah, Chris, OK. Fait,
ça a marché, ça.
Mais elle était comme... Puis, pour vrai, ce qu'elle m'a dit, c'est genre, regarde, on va aller chez vous à soir, mais...
On va te donner ta dernière
chance. C'est un peu ta dernière soirée, en voulant dire. Mais elle n'est jamais repartie.
Aïe!
Ouais.
C'est bon.
Puis est-ce que vous avez déjà eu la conversation avec du recul? Genre, est-ce que c'était un petit test qu'elle te faisait de genre, là, le fuckboy, genre, c'est comme, c'est là où ça passe ou ça accorde. Genre, ça, tu t'accroches ou ça, je m'en vais.
Mais je pense qu'il y a une partie d'elle qui se disait, tu sais, qu'elle trouvait ça bizarre. Tu sais, elle sortait d'une relation où est-ce qu'elle avait comme, elle était pas loin de fonder une famille avec le gars, tu sais, genre, tu sais, elle était comme un petit peu à cette croisée des chemins-là. Tu sais, fin vingtaine, là, tu commences à t'installer plus. moi, dans sa tête, j'étais genre le beau petit gars, cute, mais tu sais, je suis un barman, je cours à gauche, à droite, je suis pas sérieux. Puis quand elle a vu mon côté plus sensible, plus comme, genre, quand j'ai lâché mon front, en fait, je pense qu'elle a eu accès à une partie de moi que j'essayais de cacher parce que je me disais, si je me montre sensible puis vulnérable devant elle, elle va me quitter. Mais au contraire, c'est ça qui l'a fait rester.
OK.
Ouais.
Moi, ça m'intéresse ta vie de barman. Là. T'as-tu déjà couché avec le payroll?
Ouais.
C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée?
Moi, ça a pas été si pire.
OK.
C'est arrivé avec 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas. 2, 3 personnes.
En même temps?
Non.
Non.
Non, c'est pareil. Mais c'était correct parce que c'était comme. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas comme la vie de bureau, les bars, là. Tu sais, t'es là un ou deux soirs semaine. Souvent, le staff change. Nous, c'était un bar où il y avait beaucoup de mouvements d'employés. Fait que, tu sais. Moi, à la limite, il y a une des filles que ça m'avait fait plus de peine parce que je commençais à m'attacher. Classique Arnaud qui tombe en amour après deux baisses. Mais là, j'étais comme. Puis là, j'en revoyais. Puis elle partait avec le DJ. Puis là, j'étais comme. Mais. Moi, ça m'a fait un peu de peine, mais tu sais, c'était pas non plus une dynamique de genre patron, employé. Il y avait pas une game de pouvoir, il y avait pas de jeu. C'était vraiment plus comme, hey, on a du fun. Aussi, genre, on boit, on se couche tard, on va faire des afters. Tu sais, il y a comme une espèce de contexte qui menait à ça.
Ouais.
Mais ouais, c'était particulier ces années-là.
Qu'est-ce que tu t'ennuies de plus de ta vie de part animal?
Je m'ennuie de l'insouciance de ces années-là. Ça, c'est une affaire qui me revient souvent ces temps-ci, la nostalgie de cet âge-là. Vraiment, mon adolescence, quand je commençais à travailler, à avoir une certaine autonomie financière, mais j'avais pas à stresser avec mes hypothèques, mes assurances-vie, mes kids, mes paiements de char. Tu sais, tout ce que la vie adulte amène en termes de responsabilité, je l'avais pas. J'étais juste dans le social, rencontrer du monde, explorer, partir sur la go. Puis les conséquences un petit peu de tes actes, c'est juste toi qui es hangover ou toi qui te réveilles dans une place weird.
Ouais.
Fait que tu sais, je trouve qu'il y avait une espèce de simplicité à la vie.
Puis on s'en rendait pas compte parce que dans ce temps-là, ton problème, c'est pourquoi je pogne pas avec les filles. Puis dans ta tête, c'est genre, c'est ça qui.
Ouais, puis les problèmes sont aussi gros d'une autre manière.
C'est ça.
C'était des enjeux sociaux. Pourquoi elle m'a pas parlé au party?
Fait que j'ai pas l'impression, genre, je pense avec du recul, on se disait plus simple, mais on le vivait pas plus simple, je pense, parce que tous les problèmes étaient plus gros.
C'était plus simple d'un point de vue administratif,
mais ouais.
C'était moins de paperasse.
C'était moins de paperasse, ouais.
On avait des enjeux, puis moi, j'étais un hypersensible, fait que tu sais, ma vie était ah, mais il y avait comme, je m'ennuie de genre hang out au parc avec des amis, puis on n'a pas de sel ou on a des sel flip phone, qu'on n'est pas tout le temps sur nos réseaux sociaux, que c'était comme, on se rejoint au parc. On va boire des bières au parc. On sait pas qu'est-ce qu'on va faire le soir. On apprend qu'il y a un party chez quelqu'un. On part en vélo dans la ville. Cette espèce d'insouciance-là, je sais pas si ça ressemblait à ça aussi, votre adolescence, mais le côté juste go with the flow.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense que vous avez vécu les meilleures années. Parce que moi, il y avait des selles, mettons. Moi, je trouve les années
c'est ça, t'es plus jeune un peu. Ouais.
Les American Pie, là, tu sais, j'ai écouté beaucoup de ces films-là. Puis les parties American Pie, je trouve que ça avait l'air du prime. Tu sais, personne n'avait de téléphone, tout le monde était là. C'est sûr, c'est un film, là, mais genre, il y avait de plus, on dirait.
Ah, mais moi, mes premiers parties, ça n'existait pas. Tu sais, quand j'étais au secondaire, mettons, mes parties en 2004, mettons, là. On se débarquait dans des pioles. C'était des open house dans ce temps-là.
Ah, c'est
puis, man, tu voulais pas être les parents de la personne que le mot se passait. Non. Parce que nous, c'était plusieurs secondaires, plusieurs écoles secondaires qui se passaient le mot. Là. C'était genre trois grosses écoles secondaires du nord de l'île. Fait que des fois, on était 800 là, chez quelqu'un, tu catches pas. Là. C'est la police qui finissait le party. Là.
Ah, c'est fou. Ben, nous autres aussi, mais il y avait tout le temps le layer. Tu sais, toi, tu dis 2004, moi, mon premier party, c'est genre 2014. Fait que tu sais, juste en 10 ans. Tout avait changé. Là. Nous, c'était le plus sou, il se retrouvait sur Facebook avec des pénis d'en face, là, c'est sûr. Il fallait déjà penser un peu à ça là, dans ce temps-là.
Ah, ouais,
parce que là, c'est une double répercussion. Parce que se réveiller avec des pénis d'en face, c'est comme fuck. Se réveiller avec un pénis d'en face sur Facebook, t'es comme fuck.
Ouais,
y a comme...
À ta fête, c'était genre la mode que t'envoies la photo la plus gênante de ton ami pendant un bout. Là, fait que là, à ta fête, c'est juste du monde qui t'envoie des photos de toi et sous avec des pénis d'en face. Puis Chris, ma mère, à Facebook, elle aussi. Là, fait
hey, man, nous, on filmait des shit. Je me rappelle les débuts des téléphones, mais tu sais, la résolution, ça fait que je te montrerai des vidéos de moi ben sous, tu pourrais même pas voir c'est moi.
Ouais, c'est
genre,
ça.
C'est tellement pixelisé.
Ouais,
les Nokia, même. Tu sais, on prenait des photos, c'est genre Je pense que c'est 8 pixels, man.
Puis on,
brune.
Puis on capotait.
Puis on était genre, yo, check ça, c'est quoi?
Mais ça te mérite un petit cadeau, mon
Merci.
Arnaud. Par Eros et compagnie.
Tu dois être rendu full equipped.
T'en as une coupe.
Ouais, oui.
Ça se pourrait qu'il finisse au Renaissance, mais.
Non, ça, je sais pas. On a pris quoi de plus.
Ah ouais?
Alors, okay. J'ai hâte de voir. Je sais pas c'est quoi, mais on va
plus. Quoi de plus délicat, là?
Ok, on part avec la carte. Ah ouais. Euphoria. Oh, parfum pour rhum. Let's go. Ouais. Les parfums Eros possèdent des ingrédients exotiques qui libèrent des phéromones pour le plaisir humain. Euphoria pour l'homme est la combinaison parfaite d'arômes rafraîchissantes et sucrés d'eau de mer, de citron sicilien, de bergamote, de calabre.
Si bon.
Let's go. Une façon délicate d'attirer l'attention sur vous. C'est cool. Merci. C'est un beau cadeau pour vrai.
Plaisir.
Ouais, c'est un plaisir.
Ben, des idées, tu dois en avoir en masse.
J'ai une coupe d'affaires. Là. Je commence à être... J'ai comme une partie de mon garde-robe là, de Eros. Là.
C'est un... Ok, c'est vraiment un parfum Eros. Ouais, mais qu'est-ce que ça sent?
On l'ouvre.
Thanks.
Un vrai pro, man.
Oui.
Commence à connaître la job. Je suis pas capable de l'ouvrir.
Tu sais?
Ouais, c'est assez. T'sais.
J'ai peur qu'il s'ouvre, mec. Ah, ok, oh. Ouais, c'est ça, Dredd. Fait qu'on s'en spray un juste de même, là, peut-être, pour le sentir. Ouais. Light?
Vas-y,
je t'en
mets un petit. C'est léger, là. Donne-moi un petit. Ah, ben, crime. Ça sent bon,
ouais, là. Ça sent bon. Sur Yeti.
Crime, ça sent bon, pour vrai. Je laisse sans la phéromone.
Ah, ouais.
Ouais, hein? Puis il est light. Tu sais, il y a des parfums que tu mets un spray, puis je trouve ça trop fort. Lui, ah. J'ai l'impression qu'il y a comme. Je sais pas s'il est considéré comme eau de toilette ou. Tu sais, j'ai.
Ah, c'est un parfum,
on pourrait l'essayer sur nos participants de Too Blind To Date. Un
ah,
qu'on en
c'est une
met,
bonne
puis
idée.
L'autre non, voir s'il pogne
ouais,
plus
ouais,
que l'autre.
Ouais, Chris, il y a quelque chose à faire. Un thank you pour vrai. Je vais l'essayer.
Ben, let's go avec le break 15. 15% de rabais sur les produits chez Eros.
Yeah.
Yes. Hey, je suis curieux de savoir. On parlait un peu de ton couple. Puis t'as eu deux enfants.
Ouais,
une de 5, puis l'autre de 2, 3.
Ouais, quasiment 3. Ouais.
Par rapport au couple, genre, est-ce que tu fais des efforts pour entretenir le couple? Genre, c'est comment vous faites pour. Genre, est-ce que tu y penses à ça? Que, mettons, ça peut pas être juste la famille, puis qu'il faut prioriser aussi
mais
genre
ça,
votre couple. Puis comment vous faites? Parce que t'es quand même une carrière occupée. T'sais.
Ouais. Excellente question encore. Ben, au début, je te dirais, les premiers mois/années, là, t'es plus en mode survie, en tout cas pour nous. Je peux pas parler pour tout le monde, mais t'sais, on n'avait pas vraiment le blueprint de comment faire pour sauver le couple. Fait que c'était plus comme, OK, on dort quand on peut, moi, je travaillais beaucoup. Fait que ça a été très difficile pour l'intimité à ma blonde puis moi. Mettons qu'on a perdu beaucoup d'intimité, tu sais. Là, quand les choses se placent, tu catches qu'il faut que tu crées les moments. Tu sais, t'attends pas. Fait que nous, ce qu'on faisait au début, c'est genre, on se louait un hôtel une nuit, tu sais. Puis on était comme, on droppait les enfants chez les grands-parents. Puis on était comme, là, c'est 24 heures à nous, là, tu sais.
Ouais, faut faire ça.
Parce que sinon, t'es comme en mode... OK, on va fourrer plus tard, mais là, faut plier du linge, puis là, le moniteur de bébé allumé, puis ouais, là, puis la monnaie, c'est que t'es semi dans le mood, là, parce qu'il y a tout le temps de quoi à faire.
Ah oui, en fin de semaine, j'étais allé à l'aquarium avec mon filleul, moi, puis ma blonde, puis genre, j'ai pas pensé à ma blonde pendant... Tout le temps que le kid était là, j'ai pas pensé à elle une estime seconde. Puis j'avais, tu sais, ma mère l'avait torché avant. J'avais pas à m'en occuper en tant que parent, là. Puis
juste d'être là.
Aïe, j'imagine pas en tant que parent. On s'est assis dans le char quand le petit est parti, on était là. Hey, hein, on a vraiment pas passé une journée ensemble, toi puis moi. Hein. Zéro une barre.
Non, c'est ça. Mais tu sais, après ça, mettons, quand les enfants rentrent à la garderie, là, tu sais, là, mes deux filles sont à la même garderie. Genre 9 à 4, là. T'sais. Fait qu'on a nos journées. Fait que, tu sais, puis ma blonde, puis moi, on est travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, on peut vraiment se faire des dates de jour. Tu sais, de se faire
façon,
okay, on va dîner, on va au spa, on fait juste bing-bang sur le couch, tu sais, dans le sens. Mais faut provoquer ces moments-là. Puis ma blonde, puis moi, on a travaillé beaucoup le couple. On a été en thérapie. On a vraiment. Il y a eu des bouts tough. Puis là, ça va super bien. Puis je pense que ça n'a jamais été aussi bien dans mon couple.
Mais c'est ça, je trouve, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Puis tu sais, je suis zéro père, fait que j'ai aucune qualité de qu'est-ce que je parle. Mais de mon expérience, on dirait que je trouve qu'il y a beaucoup de couples qui vivent pour la famille. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que tu t'en rends juste compte quand tes enfants, ils partent. Puis là, c'est comme, hey, Chris, ça fait 15 ans qu'on se parle plus vraiment, puis qu'on n'a plus trop de points en commun. Tu sais, on dirait que c'est un modèle fréquent.
Mais
là,
c'est
là.
Le danger de n'importe quelle relation pilote automatique, tu sais. Ton meilleur ami, là, que tu fais juste texter à sa fête, après 3-4 ans, là, ça se peut que ça backlash.
On est plus vraiment amis, c'est ça.
Fait que je pense que. Une relation, par défaut, faut que tu en prennes soin. Puis ça implique prendre des moments dédiés à ça. Pas juste, tu sais, comme je te dis, l'hôtel. Mais même chose avec mes chums. À un moment donné, on va se faire des soirées ou des chalets juste en chum. Puis là, on a le temps de rentrer dans les conversations, prendre des vrais... vraiment connecter avec l'autre. Sinon, c'est juste être en surface tout le temps. Puis je pense que c'est là que les relations se désagrègent. C'est ça. Parce que les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est tout le temps interconnecté parce qu'on like les posts des autres, on s'envoie un petit...
mais pas en tout.
Un petit lol react. C'est pas ça de la relation.
Non, c'est ça.
C'est de prendre du temps ensemble.
Ouais, puis personne ne montre sa vraie vie sur... T'sais, tu ben vois non. pas la vraie vie de l'autre personne sur Instagram. Tu es juste une espèce de...
Tu montres tes bons coups, là.
Ça va vraiment bien.
Ben oui, aussi,
c'est quoi ton plus gros défaut en couple, Arnaud?
Je pense peut-être... mon impatience, peut-être, en général, sur les choses. Avec la famille, je peux vite virer impatient. Fait qu'à un moment donné, là, si les filles, là, après 4 minutes, là, t'es bas d'hiver, tabarnak. Fait que je peux virer impatient. En couple, peut-être plus ma susceptibilité. J'ai bien de la misère à prendre des reproches. C'est comme je veux... Si ma blonde me dit quelque chose qui se veut constructif, là, pas une attaque, là. Hey, ça, j'aime pas ça quand tu fais ça. Je me ferme, genre.
Prendre ton ego, hein.
Là, je suis comme... C'est comme si je... Il y a une partie de moi, puis ça vient de l'enfant, je pense, qui peut pas accepter d'être prise en défaut, genre.
Mais t'es-tu du genre à y faire des reproches?
De
la mettre en défaut?
Oui, ben je suis capable de critiquer des choses. C'est vrai que souvent, je vais ravaler, puis là, ça va sortir croche.
Ou pendant qu'elle a te reproche
quelque
chose.
Ben c'est ça.
Hein? Ben, puis toi, je
suis comme, ouais, mais toi, exact. Fait que là, ce que je fais souvent, parce que je commence à catcher que je suis le même. C'est vraiment ma personnalité. Fait que si elle a de quoi à me dire, j'absorbe, même si je suis pas de bonne humeur, j'écoute, je vais prendre une marche.
Ah ouais.
Tu sais, je réponds pas tout de suite.
Puis qu'est-ce
j'absorbe, puis là, je fais, mais Chris, elle a raison, ça. Puis ça, je suis pas d'accord, par exemple. Ça, je vais lui dire. Ou ça, mais ça, c'est un bon point. Fait que là, j'ai comme le temps de décanter ça un peu. Là, je vais dire, écoute, ça, oui, ça, non. Ça, je suis pas d'accord. Ça, en effet, ça, je vais travailler ça. Mais par exemple, toi, ça. Fait que là, je vais être un petit peu plus comme émotionnellement retombé, tu sais. Puis, c'est ça. Mais après ça, tu sais, on a fait de la thérapie aussi pas mal. Puis la thérapie, ça sert à ça aussi, là. C'est d'avoir un cadre neutre pour exprimer des idées sans que ça tombe tout de suite dans l'émotif.
Mais ouais, moi, j'écoutais... Il y a un acteur que j'aime bien qui s'appelle Dax Shepard. Puis il est en couple avec Kristen Bell.
Ouais.
Puis il est super belle, puis ils sont un beau couple. Puis lui, il parlait que quand ils ont commencé à se faire ensemble, ils commençaient à faire un film ensemble. Fait qu'ils étaient comme pognés à habiter au début de leur relation pendant 4 mois ensemble. Puis ils pouvaient pas se séparer, il y avait de la pression sur le couple. Fait qu'ils ont starté direct avec la thérapie de couple, eux autres. Genre. Puis il a dit sa meilleure affaire, ça a comme installé à la base de notre communication. Genre, tu sais, des petits quirks que t'as, puis qu'elle a là. Mais dès le début, on l'a travaillé comme fou. Fait que ça a comme réglé le shit. Fait que je suis curieux de savoir, toi, c'est quoi qui t'a mené à faire ça? Est-ce que c'est une place que ça allait pas bien ou c'est une place que, genre, c'est pour développer la communication, justement?
Ben, tu sais, moi, la thérapie, ça fait longtemps que j'en ai fait en solo. J'en ai déjà fait à l'époque avec ma blonde pour des enjeux plus spécifiques. Puis là, tu vois, dans la dernière année, on se chicanait tout le temps ces mêmes affaires. Puis là, j'étais tanné. C'est comme s'il nous manquait d'outils. C'est genre, on revivait tout le temps la même chicane. Toute mon affaire de susceptibilité, puis moi, j'ai reproché les mêmes affaires. Puis c'était les mêmes style pattern. Puis ça finissait par se résoudre un peu par le temps, mais j'étais comme, j'avais l'impression qu'on réglait pas cette shit-là, puis qu'on avait besoin d'aide. Fait que là, en allant voir une thérapeute, on était comme, on savait exactement quoi adresser, là. On était en mode, regarde, ça, aide-nous. Puis là, elle, avec nous, elle met en place une espèce de cadre où est-ce que tu dis, ben, essayez de faire ça. Si vous faites ça, qu'est-ce que ça fait? Puis là, à chaque semaine, tu fais, mais Chris, ça a marché, ça moins. Puis là, tu commences à avoir juste vraiment une espèce de mécanique de couple qui fait que au lieu de tomber dans l'émotion tout de suite, tu fais, OK, mais tu sais, étape 1, étape 2, étape 3. Puis nous, ça nous a vraiment beaucoup aidé.
Ouais.
Ouais. Vraiment.
Ça vous a pris combien de sessions? Est-ce que vous y allez régulièrement ou c'est une
là, on
deux
a arrêté.
Sessions?
Ben, tu vois, au début, c'était comme 6-7 en ligne. Puis après ça, c'était aux 2 semaines. Puis à un moment donné, on a fait, je pense qu'on est good.
Okay.
Fait que, tu sais, on a attendu d'être bien sûr que. Fait qu'on a dû y aller, mettons, une dizaine de fois. Ouais.
Ah, c'est intéressant. Puis ça aussi, c'est un autre truc que je pense que le monde n'ose pas trop en parler ou c'est comme un peu tabou, genre, parce que ça montre une genre de faiblesse que des fois, peut-être. Mais en même temps, je pense que c'est de quoi tu parles.
Mais ça, tout ça, ça revient à l'ego. Puis moi, je l'ai. Puis je pense que notre culture, peut-être encore plus chez les hommes, une culture d'ego, de se montrer toujours fort, ça a ce défaut-là qu'à un moment donné, tu n'acceptes pas la faiblesse, la vulnérabilité, la remise en question. Puis ça, dans une société ou dans des relations, c'est comme essentiel d'apprendre à faire comme j'ai merdé là-dessus, je reconnais mes torts là, je peux apprendre. Je trouve que quand tu essaies de fronter que tu es toujours comme au top, à un moment donné, ça va te rattraper, tu sais.
Ah oui, ça montrer sa vulnérabilité, je pense, surtout à une femme, c'est plus.
Ben, c'est parce que, tu sais, montrer sa vulnérabilité, c'est juste baisser sa garde. Tu sais, c'est donner accès à ses vraies émotions, j'ai l'impression. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Puis c'est là qu'il y a un vrai échange. Si t'es tout le temps juste dans l'espèce de masque de la version comme imaginée forte que tu voudrais être, ça veut pas dire qu'on peut pas être des fois cette personne-là, forte puis confiante, mais si tu donnes jamais accès à comme tes insécurités, parce que tout le monde a des peurs, tout le monde a des insécurités, c'est pas une faiblesse, ça s'appelle être un humain. Si t'as pas de peur, t'es un psychopathe.
Ouais, puis ça aide à connecter. Moi, j'ai remarqué que moi, je suis quelqu'un que ça me prend une conversation avec quelqu'un pour pouvoir... Genre, ça me prend une conversation one-on-one pour dire « OK, là, je pense que je suis à l'aise. » Puis mm-hmm. il y a ce côté-là que ça... Si on a eu le temps de se parler assez puis que là, chacun, on a montré un genre de côté vulnérable, ça crée une relation humaine. C'est genre, bon, là, je sens qu'on se connaît. C'est pas... Je sens que je parle à la vraie personne, pas le front de « qu'est-ce que tu vas avoir l'air au bord pour avoir l'air... »
Ben, c'est que ça rapproche réellement aussi parce que t'as accès à quelque chose de plus intime. T'sais, puis moi, ma blonde, elle sait tout de moi. J'ai parlé de traumatisme que j'ai eu, d'histoires que j'ai pas racontées à grand monde ou slash à personne. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ça crée un lien de confiance aussi super fort. Là.
Tu vis comment avec le succès financier?
Je vis bien, je suis content, je me sens chanceux parce que je considère pas que je le mérite plus que d'autres dans le sens où j'ai plein d'amis qui travaillent fort puis que...
Qui sont pauvres.
Ouais, qui sont pas nécessairement pauvres, mais qui ont moins de lousse, mettons. Fait que moi, je suis conscient que je suis dans une industrie qui est quand même vraiment lucrative. Fait que je suis super heureux, puis je me sens privilégié, puis j'essaie de faire profiter mes proches. C'est pas mal moi qui paye les vacances à la famille tout le temps, mes parents, mon frère. J'aime se gâter mes amis au resto.
C'est quoi ta plus folle dépense? T'as pas de l'air d'un
non,
gars
mais
genre
pas un
extra...
Gars. Non, je suis pas vraiment un gars au cash. T'sais, moi, j'ai acheté mon char cash, là, mais c'était un RAV4 hybride. Là. Il m'a coûté 25 000, usagé. Puis j'ai acheté une maison, là. C'est quand même
c'est nice.
Un couple de centaines de milliers, presque payé. Mais sinon, non, je suis pas du genre... Je suis pas un gars matériel, je suis pas un gars d'objets. Fait que moi, mon téléphone, je l'use, j'essaie de le toffer. J'aime pas ça acheter pour acheter.
Mais t'as travail. Moi, je trouve que t'es un des créateurs que je vois qui produit le plus. Puis en plus, tu produis sur plein de verticales différentes. Tu sais, tu fais du stand-up, tu fais des clips, tu fais ta chaîne YouTube, tu fais tes podcasts, tu fais des vlogs ici, on dirait. Au Québec, tu dois être un qui fait le plus de variété de contenu aussi. T'as pas le temps d'acheter des affaires, toi.
Le pire, c'est que j'aurais le temps, mais je te dis, c'est juste pas dans ma personnalité. Moi, si j'ai de l'argent à dépenser, j'aime mieux des moments. Je vais aller dans un bon resto, on va aller en voyage, ou je vais aller au spa. Je vais me payer des moments plus qu'une montre, plus qu'un char. Je l'ai juste pas, cette affaire-là. J'aime les beaux chars, j'aime les beaux objets, mais je suis pas comme... je sais pas.
Ça a-tu créé des conflits, soit dans tes relations de couple ou avec des amis, de passer d'une classe plus moyenne à... classe plus aisée?
Tu sais, je veux pas parler pour les autres, parce qu'il y a des gens dans mon entourage qui ont peut-être eu de la jalousie, ça se peut. On me l'a pas tant verbalisé, parce que j'imagine que c'est un feeling qui est pas super le fun, là, mais tu sais, avec ma blonde, c'était pas tant l'enjeu de l'argent, plus que comme au début, je travaillais beaucoup, puis par défaut, on a beaucoup priorisé ma carrière parce que j'étais dans un esti momentum, puis ma blonde était à la maison avec l'enfant, puis elle, c'est une autrice, elle écrit, elle est en littérature, mais tu sais, comme elle s'est beaucoup faite comme « Ah ben oui, mais Arnaud, ah ben oui, mais ce contrat-là, ah ben là, la tournée, ah ben le show télé. » Mais tu sais, après 2-3 ans, tu vois, là, depuis qu'elle s'est remise à travailler plus, qu'on a retrouvé une espèce d'équilibre professionnel, ça va vraiment mieux dans notre couple, entre autres pour ça. L'affaire de l'argent, tu sais, c'est ça, je peux pas parler pour les autres. À date, les gens autour de moi, je pense, sont juste contents quand j'ai gâte.
Ben oui.
Puis, tu sais, je suis conscient que ça va peut-être, tu sais, je suis pas super riche, mais tu sais, je gagne bien ma vie, j'ai de l'argent de placer, je devrais être correct pour petit bout, mais tu sais, il y a un facteur chance aussi là-dedans, tu sais. Ça se peut qu'à un moment donné, ça marche plus mes affaires, fait que je m'assois pas sur ce succès-là non plus.
Hey, Yeti, tu prendrais-tu ma place un petit 5 minutes pour une question? Faut vraiment que j'aille pisser. Puis... mais ça me tirait là pour ça.
Ce qui est
ça,
nice, c'est qu'il peut pisser dans son saut, personne va s'en rendre compte.
Il y a une couche.
Ouais, c'est ça. Let's go, tu commences à avoir chaud, mon homme?
Ouais, c'est pas, je commence, c'est depuis le début.
Ah ouais, depuis le début? Ouais, depuis le début.
Hey, t'es bon depuis une heure que t'es là.
Ouais, je fais des petites pauses parfois en arrière, mais ça commence à être compliqué.
C'est un bon flash, ça, man. J'adore.
Moi, j'ai pas de questions là comme ça.
Non?
T'as pas de questions comme ça?
Bah, je vais t'en trouver une, mais.
Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen et long terme? Parle-moi de ton nouveau show, Bon Jus.
Ouais, Bon Jus, officiellement, la première, c'est en mars. Super excité de ce show-là. Je pense que c'est vraiment bon. C'est différent un deuxième show parce que premier show d'humour, pour bien du monde, c'est un collage un peu de tes meilleurs numbers. C'est un peu un show fourre-tout de
je comprends.
Carte de visite. Là,
j'essaie, ça pogne, ça pogne.
Best-of, ça roule. Là, c'est un show plus thématique. Il y a vraiment un filon de fun, plus personnel. Mais je pense qu'il est bien équilibré. Il y a de l'humour dark, il y a de l'humour plus snappy. Il y a des trucs vraiment à cave. Il y a des trucs personnels, anecdotiques. Okay. Je pense que j'ai une bonne affaire dans les mains. En tout cas, je suis vraiment fier à date. Fait que je pars on tour pour sûrement 2 ans.
Okay.
D'habitude, c'est ça le plan. En tout cas, j'ai des dates jusqu'à 2026 déjà. Si ça va bien, on va poursuivre ça.
Puis c'est quoi les sujets que tu abordes quand tu parles de quoi de plus concis?
En termes de sujets dans le spectacle, ben, t'sais, y a toute l'histoire de procréation assistée, la famille, qui est un peu le thème central. Mais à travers ça, je parle beaucoup de mes relations. Fait que je parle de mon couple, je parle de mes amis. C'est quoi vieillir en amitié? T'sais, moi, j'explique que je suis un gars fidèle en amitié. J'ai vraiment mes chums depuis longtemps, genre l'école secondaire. Puis ça crée des moments où est-ce que, t'sais, on a beaucoup changé, on n'a pas les mêmes intérêts. Fait que je ris un peu de ça. C'est quoi vieillir en amitié quand on est fidèle comme moi dans nos relations? Je parle des régions beaucoup, vu que j'ai énormément fait de tours.
Ouais.
Fait que, tu sais, la différence région-Montréal, je fesse un peu ces régions. Si je fesse sur Montréal, tout le monde passe au cash. Ouais. Y a un bit, tu sais, je veux pas tout spoiler les trucs. C'est pas des gros spoils, mais je parle du rap. Ça, c'est un de mes numéros préférés. Moi, j'aime beaucoup le rap. Fait que j'ai un numéro sur le rap que j'adore faire.
Okay.
Que je ris un peu de différents types de rappers.
Ouais, t'avais beaucoup d'amis de Dead OBs,
ouais, Dead OBs, yes, McCann,
tout le shout-out.
Exact. By the way. Yes.
Puis je me demandais,
t'as-tu
le souci de ce que les autres humoristes vont parler? Parce que justement, on est allé au Fridge dans le Comedy Club de Kev Adams. Puis il y a eu plein d'humoristes, puis j'ai l'impression qu'ils ont tous parlé de la même affaire. Il y avait 15 minutes, là, puis on dirait qu'ils ont tous parlé de couple, de séparation. Fait que toi, t'as-tu le souci de où tu y vas all-in? Moi, c'est moi, ça, c'est ça.
Quand je suis pas en écriture de stand-up, je consomme beaucoup de stand-up. Ça m'intéresse, j'aime ça. Je vais voir des shows, je vais dans les Comedy Club, je check les specials sur Netflix. Quand je suis en écriture, je regarde plus. Parce que je veux pas être contaminé en me disant « Asti, je parle de ça. Ah, Chris, son angle est meilleur. » Pour ce qui est des thèmes, je pense que c'est toujours l'originalité de l'angle. Tu sais, est-ce que tu t'empêcherais d'écouter une toune parce que c'est une toune d'amour? Est-ce que tu t'empêcherais d'écouter un film parce que le thème, c'est la revanche?
Ouais.
Tu comprends? À un moment donné, je pense un bon thème, c'est un bon thème. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont vraiment qui tombent dans... T'sais, le CrossFit, c'est un bon exemple. Le numéro à Simon Gouache, il était écœurant là-dessus, mais tous les humoristes cette année-là avaient un numéro sur le CrossFit.
C'est ça.
Le végétarisme, à un moment donné, tout le monde avait un bit sur les VG.
Donald Trump.
Le Trump, Asti, là, les chars électriques. À un moment donné, c'est à double tranchant avoir le numéro sur l'affaire d'actualité parce que t'es comme. C'est très hot quand t'es au Comedy Club et tu fais la joke on the spot. Mais quand t'amènes cette joke-là 2 ans, 3 ans tournée, puis après ça, ton special joue à TVA pendant 3 autres années, ça commence à sentir le réchauffer. Ouais. Fait que j'aime mieux aller sur des thèmes universels ou très personnels. Puis ça, tu peux jamais te le faire enlever. T'sais.
Comme Rachid Badouri qui avait sorti son show à TVA genre 2 ans après la COVID. Moi, j'écoute ça. Ou à Netflix.
Ah,
j'écoute ça, il parle de COVID. J'étais comme, hey, j'ai fermé ça direct.
Mais personne ne veut entendre parler de COVID. Personne. Tu sais, ça, moi, je pense c'est assez unanime. Si quelqu'un commence à me parler de la pandémie, je suis comme, c'était le fun pendant là, les jokes de flèche à l'épicerie. Là,
ça a été que ça aussi pendant 2 ans. Tu sais, tous les films, c'était tout. Il n'y avait plus rien ou c'était juste des affaires COVID. Fait que,
là, on est trop mal. C'est comme collectivement, on fait, next.
Ouais.
T'avais une question, Yeti?
Ouais, je voulais savoir si t'avais un rituel avant de monter sur scène.
Ouais, quand même. Ouais, pour vrai, ouais.
Ben voilà.
C'est une question.
Ben, c'est un rituel, là. Tu sais, ça sonne spirituel, là. Tu sais, je prie pas, là. Shout out à GNT. Mais je suis plus en mode. Mais je suis plus en mode, genre, je m'étire, je fais des échauffements vocaux. Genre.
Ouais, tu fais de la méditation
guidée?
Ouais,
je fais des méditations tout le temps. J'ai mon application qui s'appelle Headspace. C'est comme une voix, là. Il y a Héloïse, moi, que je prends. C'est une voix, c'est une française. Elle est comme « Laisse ton corps se poser sur la chaise. » Puis elle a une voix vraiment apaisante. Puis en gros, c'est vraiment classique, là, genre méditation guidée, respiration.
C'est nice cette space parce que c'est pas long, puis ça calcule tes jours. Genre, moi, je suis un peu, genre, j'aime les statistiques, là, fait que genre, ça te donne.
Ok, je savais pas que tu connaissais ça.
Ben là, je l'utilise plus, mais avant, j'étais ben Headspace, puis j'aimais ça.
C'est une bonne app, je trouve.
Ouais.
Fait que je fais mon Headspace, je fais mon échauffement physique, je fais mon échauffement vocal. Pas mal ça, man, honnêtement, ouais.
Je me demandais, c'est quoi que tu as vu de plus impressionnant dans ta vie, à tout point de vue, genre une situation étonnante, t'as vu quelqu'un crever devant toi, tu t'es fait sortir un gun d'en face, t'as vu un accident, t'as vu, je sais pas, le battre à Donald Trump.
Un des moments les plus marquants pour moi, ça a été mon voyage en Thaïlande, quand je commençais à sortir avec ma blonde. Fait que ça fait un petit bout déjà. On a passé un mois en Thaïlande en mode 2 cassés, le backpack. Puis il y a eu tellement juste de moments sketch où est-ce qu'on a comme passé de se faire frauder tout le temps, des raquettes, de comme... C'est vraiment sketch, là. Quand t'es comme un peu naïf comme nous, tu te fais prendre par un tuk-tuk qui t'amène dans un cul-de-sac, puis c'est comme... C'est un peu pas « donne-moi tout ton cash », mais tu sais, il faut que tu prennes un autre bateau, puis là, t'es comme « non, je veux pas aller là », puis tu sais, c'est vraiment des raquettes. Le plus sketch, je pense, c'est quand on était dans le nord de la Thaïlande, on était dans le coin de... Je pense que ça s'appelait Pai, une petite ville vraiment hippie. Puis là, on voulait traverser jusque dans Koh Lanta, là, les îles au sud. Puis au lieu de prendre un vol à comme 80$, on était comme, on va prendre l'autobus, c'est 20$.
Puis combien de temps?
2 jours et demi.
Genre.
C'est un bus?
Ouais, un genre de Greyhound. Mais là, première affaire, ils donnent un sticker. Ils disent, OK, attends-nous là à 18h avec le sticker. Fait que là, il y a un gars.
Cible, genre.
Ouais. Là, il y a un gars en moto qui vient de prendre. Mais il tire une genre de charrette, là, il t'embarque là, mais tu te sens comme un otage, là, il te crie après, genre. Là, il t'amène dans un autre Jeep. Là, t'es comme, tu sais, t'as vraiment peur de te faire gonner. Là, il t'amène à un bus, finalement. Le bus, il roule, là, ça fume dans le bus. Il y a un gars qui crie qu'il s'est fait voler son passeport. Le gars qui chauffe, il est sur le Monster, man, il saigne des yeux. Là, il s'arrête sur l'autoroute, il change un pneu du boss. Parce qu'il y a un flat. Là, à un moment donné, il dit « OK, il faut changer de bus. » Il nous fait traverser une autoroute, mais c'est genre 6 voies, genre. Il faut juste courir dans la nuit avec nos sacs. Il y a des enfants.
Tabarnak.
On rentre dans une place, on se fait crier après. Il y a des chiens qui jappent. Là, ils nous donnent de la soupe. T'sais, on a faim, ça fait genre 12 heures qu'on n'a pas mangé. On mange des genres de soupe aux tripes. Il y a des chiens qui jappent. Là, il y a un autre bus qui part. Là, ils nous drop à Bangkok, dans le centre-ville. Genre « Sortez, sortez! » Puis là, c'est comme, on revient dans 24 heures. Là, t'es 24 heures à Bangkok. Faut que tu te loues un hôtel. Fait que là, t'es genre, c'était tellement sketch.
Hey, tu te vas avoir
puis à chaque étape, t'es genre, je vais mourir ou je vais pas me rendre.
Fait que l'avion, t'aurais sauvé du cash si t'aurais sauvé l'hôtel puis 2 jours.
Là, on arrive au bout de Koh Lanta qu'il faut prendre un bateau. Mais, man, on s'est rendu exactement au resort. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que dans les agences de voyage, là-bas, tu te dis, je veux partir de chez nous, je veux aller au resort. C'est comme un genre de Uber, mais en 49 étapes et 16 moyens de transport différents. C'est pour ça qu'ils te mettent un name tag, là. Ils t'écrivent genre, puis il y a des codes de couleurs. Puis... Mais Chris, il nous a amené au bon resort à Koh Lanta. Man, on était blême, là, brûlé, là, 3 jours plus tard.
Ah ouais, man, je capote.
C'est là que tu fais, tu vois si t'es fait pour aller ensemble ou pas, par exemple.
Ah, man, ça, je te dirais, c'était un bon test pour le couple. Mais la Thaïlande, c'était quelque chose. Puis après ça, on s'est loué des motos à Koh Lanta, puis on s'est fait, genre, taxer par des singes, là. On s'est fait littéralement voler notre lunch par des singes. Ils bloquent la route, les singes. Puis là, tu peux pas passer, là. Ils sont couchés, ils savent très bien ce qu'ils font. Fait que là, tu ralentis, t'es comme, fuck. Ils sont, genre, 50 singes, là. Puis là, t'arrêtes un peu, puis là, ils snappent, ils vont chercher ton sac. Nous, on avait un sac de plastique avec de la bouffe, des bières, puis ils ont volé mon maillot de bain mouillé.
Ben ouais,
je te jure, ils partent avec le sac, man.
Tu te fais taxer par des singes.
Je te jure. Mais là, ils partent, ils te laissent aller.
Il fait, ah ouais, il ouvre la route, puis là, c'est le premier prochain
des...
victime.
Des vrais G, là.
C'est quand même hot, là.
C'est quand même hot. Moi, j'étais fier d'eux, là.
Pour de
vrai. Genre, pour vrai, guys.
C'est parti une petite business. Ah, genre, tu fais un stand sur le bord de la rue, tu vends un vieux maillot volé.
Ça a l'air au Mexique aussi, les singes sont wild. Mais là, sur cette île-là, c'est parce qu'il y a une réserve naturelle. Ils savent exactement ce qu'ils font, là.
Ouais, c'est ça. Un
ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Ouais, hein.
Ah, c'est bon, ça, se faire taxer par des singes.
Chris, ça, c'est un vrai voyage ratchet. T'as-tu déjà fait de quoi autant, genre, te perdre?
J'étais au Nicaragua, mais c'était pas si ratchet que ça, là. mais je veux faire ça. Tu sais, on a un de nos amis, Fred, qui a fait ça avant d'avoir des enfants. Il s'est dit, avec ma blonde, pour voir si ça fonctionne vraiment. Ils sont partis en backpack, justement, en Thaïlande. Puis on dit, si ça fait ça, on y va. Si ça fait pas, on fait pas d'enfants. Puis ils sont partis 2 mois, je pense, puis ils sont revenus, puis let's go. Fait que moi, je veux faire ça avec ma blonde avant d'avoir des enfants. Comme, tu sais, on est deux douillets, là, nous autres. Tu sais, le luxe, puis tout ça.
J'aime ça être bien, là.
Ouais, j'aime ça être bien.
Mais moi aussi, j'aime ça être bien. Puis ça, puis c'est correct de... Mais... Si t'as le goût de te challenger un peu, je pense que l'Asie du Sud-Est, ça peut être un genre de beau entre-deux. Parce que tu vois, en Thaïlande, on a fait des trucs vraiment sketch. Puis on a eu des chambres. Ça coûtait 3$ la nuit, mais on dormait à terre. Il y avait des lézards sur les murs. Ma blonde s'est claquée une crise. Elle est allergique aux fruits de mer. On a été à l'hôpital. Des bouts de stressant, mais après ça, on était comme... Je me rappelle, un moment donné, on a fait « Hey, on se loue une chambre de luxe. » C'était genre 30$ US. Puis c'était fou. Fucking de luxe, mais tu sais, c'est 30$ US.
Ah, ouais, okay.
Mais ça, je te parle, il y a 12 ans. Ça a peut-être monté un peu les prix, mais je suis sûr qu'il y a encore ce genre de... Tu peux, à un moment donné, décider de, là, je suis tanné, de dormir à terre. Ouais. Puis là, c'était genre comme une petite villa quasiment privée. C'était une maison super clean.
Ah, c'est ça, c'est nice. Ça prend... Parce que moi, les lézards, là, j'ai de la misère. Mais en même temps, j'ai le goût de faire ça à un moment donné, un voyage où je me mets dans la merde, justement, parce qu'on dirait que toute ma vie, j'ai tout le temps... Chier dans une toilette qui flush, mettons.
Ouais.
Je trouve que ça doit être bien là, d'aller se perdre dans les montagnes au Pérou puis genre d'aller te découvrir avec des alpagas pendant.
Ah, ayahuasca, c'est un truc qui t'intéresserait ou pas nécessairement?
Non.
Pas non plus.
Ben, moi, j'en ai fait.
Ok, je savais pas.
Pas de ça, non. Mais des affaires.
Plantes un peu médicinales.
Ouais, c'est okay. Ça. Puis je l'aurais fait dans ma jeune vingtaine, mais là, on dirait plus je vieillis, moi, tu sais, je. J'ai plus
non, je comprends.
J'ai plus le goût, on dirait,
de perdre le contrôle.
De
genre?
Perdre le Ben, j'ai peur de pas revenir.
Moi,
genre.
Tout, c'est ça.
Donc, pareil.
Parce que moi, avant, je disais tout le temps, mettons, quand ma blonde va être enceinte de mon premier enfant, je veux faire un genre de trip de DMT pour avoir mes révélations, devenir père. Genre, c'était ça, mon mindset. Puis là, maintenant, j'ai la chienne.
Ouais, je comprends.
J'ai fait du DMT, justement, comme pas mal.
Ça tu
c'était pas si pire que ça, mais tu sais, quand mon
intense.
Chaman, il me disait ça allait être quoi, j'étais comme malade, let's go. Puis j'avais comme 25-26, puis après ça, on dirait que c'est ça qu'il se disait qu'il était d'un plus malade à part l'ayahuasca. Mais après que j'avais vécu ça, j'étais comme, bon, j'ai plus le goût d'essayer d'aller plus loin, tu sais, j'ai essayé en masse, puis comme...
Puis tu sais, entre l'ayahuasca dans un village abandonné en Amérique du Sud ou genre un gramme de moche à Rawdon avec tes chums, tu sais, je veux dire, il y a manière aussi de...
D'être plus sécuritaire.
Un trip légèrement plus contrôlé.
Puis même, genre, même le moche, que genre, ça peut être contrôlé, puis il y a plein de monde qui ont essayé ça dans leur vie, mais tu sais, j'ai vu aussi du monde virer, spécifoqué.
C'est une grosse drogue hallucinogène.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je connais du monde que je sais même pas encore aujourd'hui, sont-tu vraiment revenus comme ils étaient avant, genre,
ça peut
ils ont gardé. Des fois,
ça
déclenche.
Ça peut déclencher des
psychoses.
Mais tous les psychotropes, surtout chez les hommes, je pense, dans vingtaine. Moi, j'en connaissais un au cégep, un chum. Esti, lui, il est allé faire du moche une fin de semaine, camping avec un ami. Ça a déclenché une psychose. C'est sûrement qu'il a fumé du weed puis tout aussi, mais il est jamais revenu, man.
Non, c'est ça peut aller loin.
Jamais revenu, man. Comme...
Puis des fois, c'est même pas la drogue. J'ai un ami qu'il avait jamais été en voyage, puis il était avec sa blonde, puis ils ont décidé de se booker un voyage en avion. Il n'avait jamais pris l'avion, rien. Puis là, du coup, on s'en va dans le sud, là, dans le sud d'un tout inclus, là, de quoi de bien basic.
Ouais, ouais.
Puis il arrive la journée du vol, puis avant, ben, il est à l'aéroport, il dit à sa blonde, « Bé, il faudrait qu'on s'en aille, j'ai peur de l'avion. » Mais j'ai jamais été capable de te le dire parce que, tu sais, son ego voulait pas dire à sa blonde. Fait que finalement, sa blonde a dit non, là, on n'a jamais pris de vacances, on y va. Fait qu'elle a comme forcé la main. Ils sont partis en vacances, puis là, il a pris l'avion, il a paniqué dans l'avion, rendu là-bas, sa genre de psychose a continué. Puis là, il est revenu, puis il a jamais été le même après.
Oh, ouais.
Juste à cause qu'il a tellement vécu une grosse peur, genre, que ça l'a traumatisé pour la vie, genre.
C'est un genre de post-traumatique, mais...
De partir en vacances, avion, c'est pas genre. Parce qu'il a fait un mojogramme à Rawdon.
Ah,
ouais, mais il y a des peurs de même, c'est irrationnel, mais ça peut...
Des fois, sur la drogue, c'est là que ça va aussi toucher des cordes sensibles que tu créerais pas, tu sais.
Mm-hmm.
Que t'as peur de pas débosser, mettons, moi, c'était ça, là.
Mais moi, c'est vraiment l'idée... Je trouve que j'aime un peu consommer, mais de manière très contrôlée.
Ouais.
T'sais, j'aime genre juste avoir une bière, un petit puff. Hein, non. Mais je réalise, puis j'ai toujours été le même, mais en vieillissant encore plus, j'ai horreur de perdre le contrôle. Puis il y en a que c'est ça qu'ils cherchent. Peut-être qu'ils ont des vies tellement rangées, tout ça, que j'arrivais à le drifter dans le côté comme...
C'est ça. Mais toi, t'es dans perte de contrôle avec tout, tu sais, les médias sociaux, c'est un peu une perte de contrôle.
Ça.
Tu publies ça, tu sais pas si tu vas si c'est la fin, si ça va pogner, si ça va pas pogner, est-ce que le monde va aimer, est-ce que le monde va
bon
pas
point.
Aimer, tu sais.
En effet.
Puis la petite affaire bizarre que tu fais, moi aussi, ça, là, je peux pas être complètement défoncé dans un festival où, genre, après ça, tout le monde, Chris, là, ça devient une rumeur, puis là, tout le monde t'a vu que t'étais défoncé, puis là, il y a souci, cette peur-là, moi, de perdre le contrôle, là, je veux pas devenir le gars, esti, que c'est l'anecdote d'esti tout croche qui l'échappe, là, tu sais.
Ouais, ou que, genre, si t'es pogné pour consommer en cachette, puis là, là, c'est là que tu tombes dans des loops, j'ai l'impression, encore plus malsaine, quand là, tu mens à ton entourage, ta consommation, parce que là, t'es... ou t'as honte, mais là, tu sais, ça peut tomber sur des espèces de patterns un peu malsains.
Ça peut tomber malsain. Mais psychédélique, c'est compliqué, parce que, tu sais, j'en ai déjà fait du moche, mettons, j'en ai déjà eu des expériences où j'avais comme l'impression que j'avais grandi un peu de ça, puis que j'avais un peu évolué, mais en même temps, j'ai vu du monde que j'ai l'impression que ça, eux autres, ça les a quand même traumatisés, fait que c'est dur de savoir, genre, tu te situes où, j'ai l'impression que personne ne le sait vraiment.
J'ai le feeling, tu sais, j'en ai pas fait tant que ça, mais il y a des trips de moche où est-ce que j'avais l'impression que je catchais des shit, là. T'sais, tu regardes un arbre, t'es comme, OK, ouais, le temps, dans le fond, c'est cyclique. Puis mes ancêtres, les cellules, l'univers. Tu sais, t'as des genres de réflexions
de même.
Mais on s'entend, le lendemain, tu te réveilles, puis t'es pas comme... Enlightened, je sais pas comment dire. T'as pas comme tant évolué spirituellement. On dirait que t'es plus juste comme...
Oh, moi, j'ai déjà senti que j'avais évolué,
ouais?
Par exemple.
OK, ça te restait, ce sentiment-là?
Peut-être plus social.
OK.
Mais moi, tout ça. J'ai
plus social.
Mais je dis ça, j'étais curieux de vous entendre, parce que moi, j'avais l'impression que ça demeurait un peu superficiel, ces moments-là de révélation, parce que quand je les vivais... Elles étaient réelles puis légitimes, mais j'ai l'impression que c'était pas comme des vrais enseignements qui me suivaient. Tu comprends
c'est
la nuance?
À dire. Ma vie, mettons, a pas changé le avant-après, mais c'est vrai, je me rappelle d'avoir eu l'espèce de truc de « aïe, tous les humains sont connectés, on est comme toutes des cellules, puis genre, si, toutes les vibrations. » On dirait que j'avais déjà eu des genres d'affaires de
mais peut-être ça ouvre, peut-être ça ouvre un peu la conscience.
Ça donne envie d'être empathique.
Ton ouverture d'esprit ou sur des concepts, je sais pas.
Ouais. Quand t'en ressors, t'as le goût d'être plus empathique. T'as même avec les arbres, les plantes, et si t'as le goût d'aller, si t'as une branche de cassé dans l'arbre, j'ai envie d'aller l'enlever pour qu'elle soit bien.
Ouais.
Tu sais, t'as comme ce côté-là où que tout est important.
Ouais, tu comprends la connexion, je pense, cosmique entre la nature, les humains, l'univers. Puis moi, souvent, en tout cas, quand je suis buzzé au chalet, je me sens petit. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de regarder le ciel, regarder un feu. Ça nous ramène un peu à l'essentiel, justement.
C'est ça.
T'es plus en synergie.
Tu vas pas scroller sur TikTok, c'est filmé, c'est impossible.
C'est pas une bonne idée.
Même que je pense que ça m'angoisserait.
Ah oui,
de tomber ces réseaux, voir les likes, les chiffres, les commentaires, il y a trop. Parce que, tu sais, ça, c'est intéressant. L'humain n'est pas fait pour avoir autant d'interactions. Tu sais, l'humain a évolué d'un point de vue anthropologique en petits groupes, 20, 50, 100 max, des petites tribus, tu sais. C'est là qu'on est dans un sweet spot relationnel, je pense, de comme en petite gang. Ou même dans des villages, à la limite, des communes. Mais tu sais, quand tu tombes réseaux sociaux, c'est que ton cerveau peut même pas concevoir le nombre d'interactions possibles.
C'est fou.
Tu sais, t'as des commentaires de monde que tu connais pas, de faux comptes, des bots, ça partage en France, whatever. Puis là, t'es genre... C'est ça qui est angoissant, je pense, entre autres, dans le réseau social, cette espèce de... Il y a trop de monde. Virtuel ton cerveau peut même pas catcher. T'es genre, nous, on est fait pour... C'est pour ça qu'on a peur de se faire backstab par tout le monde sur Internet. Parce que c'est comme, il y a des ennemis potentiels partout.
Ils sont où,
t'arrives pas à concevoir les dangers.
Ouais, ouais.
Je pense qu'il y a de ça.
Puis, genre, dans l'histoire de l'humanité, il y a personne qui a communiqué avec autant de personnes que ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Tu sais, c'est fou, là, ton dernier TikTok d'affaire de Elon Musk, 5 millions. Mais tu sais, ça, c'est juste de même.
En
là,
une journée.
C'est fou, là.
C'est beaucoup de monde.
Tout le monde avec qui.
Ouais, c'est beaucoup de monde.
C'est tabarnak,
c'est beaucoup de monde, là.
C'est pas censé avoir autant de monde qui, genre, voit ta face dans une vie, là. C'est
non, en effet.
Top, là.
Arnaud, merci beaucoup d'être venu à second tour.
Merci,
man.
Je suis très content.
C'est vraiment intéressant.
Toujours le fun.
Fait que, où est-ce qu'on peut te rejoindre, acheter tes billets pour Bon Jus, qui start au mois de mars?
Ouais, première en mars. Pas mal sold out jusqu'à l'automne. J'invite les gens à se procurer les billets plus tôt que tard, dans le sens où ça se remplit vite, qui est un beau problème pour moi, mais super chaud, je pense. Donc, arnaudcelli.com. Sinon, c'est toujours mes niaiseries sur le web.
Y a-t-il encore des chances que tu ouvres des supplémentaires si c'est long d'acheter?
Ouais, on va continuer à ouvrir des trucs. On s'en vient, on va ouvrir Saguenay, Abitibi. On va faire le tour, honnêtement. En ce moment, il y a juste Côte-Nord puis Gaspésie que j'ai pas annoncé les trucs, mais soyez patients. Puis ceux qui sont impatients, venez me voir à Québec, faites de la route, venez me voir à. Déplacez-vous.
Ben oui,
ben oui. Ben oui, je vais le rouler au moins 2 ans le show. Fait que vous avez le temps.
Let's fucking go.
Merci, bon merci de l'invitation, les boys. Toujours un plaisir.
Merci d'être venu.
Thanks,
nice.
Yeti.
T'as tout.
Il a enlevé son saut. S'il a enlevé un gant, il a la main rouge.
Il y a la photo encore là. Il y a la photo à faire tous ensemble. Peut-être que je vais participer.
Ben oui, ben oui. Pour de vrai, ça nous prendrait tout le temps un Yeti dans le background. T'aimerais pas.
Je travaille au bar, donc.
Ah non, mais Chris, c'est vraiment apprécié que tu sois venu. Ça fait un full circle. T'es un de nos premiers vrais invités qu'on a reçus, puis pas que t'es un des derniers. Là, on continue encore, mais genre, c'est cool d'avoir l'évolution du podcast, puis de te voir 2 ans plus tard.
Vous êtes bon, les boys, je lâche pas.
Puis merci, mon gars, man. C'est vraiment gentil. Venez nous voir Igloo Fest 6 au 8 mars. Yep. Tiesto va être en place.
Woo!
Dead Mouse aussi. On a bien hâte de vous voir. Puis si c'est pas fait, ben c'est pas fait parce que c'est pas sorti, mais Too Blind To Date, le show de dating à l'aveugle, va sortir le mardi 11 février. Allez voir ça en grande pompe. Abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break. Prends Arnaud Soli, le beau-frère, Igloo Fest, Frank the Draper. Pour les intimes, on se dit ciao, pis à poche pleine, les chums!
Fire!